Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour Héberna, bonjour Chélise, bonjour.
Salut
Arnaud,
tout le monde.
Bonjour Naïmadi, bonjour Jenny, bonjour tout le monde, bonjour,
bonjour
Marielle.
Bonjour Arnaud, bonjour Chélise, bonjour Chernaud, oh là là, bonjour Ciliane, bonjour Pissot.
Bonjour Pissot, les fables de la fontaine.
Bonjour putain.
Qui se souvient du meilleur nom de commu?
Mimi, merci beaucoup.
Ben merci
de m'avoir... Oh
le mec crie.
Yannodus qui vient de m'offrir un abonnement à Fabien Laurent, le bâtard.
Oui, at Fabien Laurent et maintenant abonné à ta chaîne. Hi Fabien Laurent, how are you Fabien Laurent?
Bon, c'est une vieille vanne pour celles et ceux qui ne savent pas.
Oui.
Je m'appelle Fabrice Florent.
Oui.
Il y a des gens qui se trompent sans arrêt et donc des gens parfois m'appellent Fabien Florent. Et une fois, c'est arrivé, Fabien Laurent.
Une fois, non.
Une seule fois.
Plus que.
En vrai.
Le courrier
après,
à Fabien Laurent. Ah oui, mais je pense pas que les gens qui t'envoyaient du courrier à Fabien Laurent, ils étaient au courant de la vanne. Hein. Je pense pas qu'ils regardaient le Vlogmad et qu'ils se disaient « Je vais lui proposer un contrat, mais en mettant pas son vrai nom. » Les gens, ils ont juste retenu, il y a deux prénoms. Mais pas plus. Fabrice, Florent, c'est pourtant le jingle de tes délicieux
c'est
podcasts.
Vrai. C'est fait pour. Hein.
Comment oublier?
C'est vrai. Quelle joie de retrouver Mimi et Fab.
Mais nous, on se retrouve souvent.
Nous, oui.
Mais et dans vos oreilles, par
Silane, contre. N'hésite pas à suivre Mimi, parce que j'y étais chez elle plus que de raison.
Oui, puisqu'on a parlé beaucoup de
Succession,
et puis de Ted Lasso aussi.
Ça y est, ton chat est complètement con.
Ouais, mon chat vient de faire un prout, donc il est en train de courir partout dans l'appart, as God intended. Et puis on a un podcast ciné qui s'appelle Le Film Club, qui sort tous les dimanches, où un dimanche sur deux, on vous parle d'un film qu'on aime voir et revoir. Et un dimanche sur deux, on vous dit, on va vous parler de tel film la semaine pro, comme ça vous avez le temps de le voir, parce que c'est full spoiler. Hein. Donc voilà, nous on se voit pas mal. Et puis, maintenant, on se retrouve sur ta chaîne.
Et je suis trop content.
Et les gens te retrouvent sur ta chaîne, surtout.
Incroyable.
Parce que c'est pas comme si, entre-temps, t'avais fait des lives hebdomadaires solo.
Non. I'll be back à la rentrée, je vous promets.
Pourquoi t'as lâché un peu Twitch?
Parce que je voyais plus l'intérêt.
Ok.
Voilà.
Et tu retrouves donc un intérêt.
Oui.
Puisque...
Tôt
à la rentrée, le retour de Fabrice sur Twitch, vous l'aurez noté.
Et effectivement, vous avez vu, j'ai des bonnettes de micro avec mon logo.
Ouais, en vrai, je suis un peu jalouse. Je suis là, je pense que je vais investir pour des bonnettes brandées.
Ouais.
Les
effectivement, est-ce que vous avez remarqué mon logo? C'est mon nouveau logo. Est-ce que tu avais capté qu'il y avait deux F?
Parce que je suis un peu typo graphisme, quoi.
Les gens qui l'ont. Qui l'ont pas et qui le découvrent, ils vont comme le logo Carrefour, c'est là.
Ouais.
Oh,
comme l'ours sur la montagne dans Toblerone.
Oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai. Oui, il y a un ours.
Hello Benjamin.
Salut
hello
Benjamin.
Tout
bonjour tous les gens qui viennent, qui découvrent le chat pour la première fois, ça fait plaisir.
Bonjour. Oui.
Trop cool.
Coucou.
Bon donc,
oui.
Ça fait 3 ans. La semaine passée, c'était le 16 juillet. Je l'ai vu arriver. Je me souvenais plus de la date exacte, tu sais, parce que moi j'ai la date de la vente de Mademoiselle qui est le 9. Officiel où
oui.
J'ai signé les papiers mais on a mis une semaine avant de l'annoncer officiellement et de l'annoncer au monde, ce qui était un peu la vraie annonce finalement.
Oui.
Et l'autre jour dans mon Insta m'est repopé eh bien il y a 3 ans voici le post que tu postais. Alors en plus j'avais posté une photo avec mes vœches.
Oui bah oui, c'était
pour la postérité.
C'était après la période vœche.
C'était
non, c'était pendant.
C'est ouais. Pendant ouais,
ouais
c'était
ouais.
Vraiment une photo que j'ai faite le jour même. Incroyable.
Incroyable.
Voilà.
1000 têtes, 1000 ambiances pour Fabrice Florent au
si
fil
vous,
de ces années de
si
Mademoiselle.
Si vous n'avez pas cette photo, je vous mets un lien dans les
dans le chat.
Voilà.
Vous l'avez comme
chat,
ça.
Comme ça, vous pouvez la voir. Vous allez voir ma gueule avec la. Avec
le toupay.
Avec le toupay, effectivement.
Oui, ce n'est pas un voyage en Turquie, c'était un toupay.
Non, c'était un toupay que j'ai mis pendant 1 an. C'était suite, d'ailleurs, encore une suggestion complètement idiote de ta part.
Je n'ai que des mauvaises idées, je pense.
D'avoir lancé cette idée de que je prenne, hop, que je teste ce toupay qui a fini par devenir...
une belle aventure, de très belles vidéos
ouais,
encore disponibles. Et écoute, encore une fois, Fabrice Laurent, visionnaire, puisque depuis ces quelques années où tu as testé l'aventure toupay et calvitie, enfin, il parlait de la calvitie, etc., eh bien, c'est un sujet qui a été très discuté. On a eu récemment Ken Kojandi qui a fait tout un docu dessus et qui a notamment... est arrivé en plateau avec un toupet, étant l'un des chauves les plus célèbres de France, ça a forcément fait beaucoup jaser. J'étais là, mais Fabrice Florent did it first, comme d'habitude.
Ah, mais oui. Et puis surtout, je sais pas si tu le sais que je suis allé le filmer et tout.
Mais je sais, j'avais vu.
C'est moi qui les avais mis en contact avec ces braves gens de chez Erskine. Oui.
Et je me souviens que, attention, anecdote vintage, à la sortie du film Loup, adapté de la BD Loup de Julien Niel, qui est une très bonne BD qui met en scène une jeune fille qui vit plein de choses super. Julien Niel, l'auteur de la BD, l'a adapté lui-même en film, ce qui est assez rare dans la BD française et c'est cool. Et Kian Kojandi joue Richard, le nouveau voisin et compagnon de la mère de Loup. Et Richard, c'est un monsieur de la montagne qui porte des vestes en mouton retourné et qui a une très belle chevelure dans la bande dessinée. Du coup, ils ont pris Kian Kojandi, ils lui ont mis des cheveux et je sais que tu l'avais filmé en coulisses en train de se faire poser son toupet et que, catastrophe, tu avais perdu les rushs du tournage des coulisses de Loup. Ça fait partie des... Presse F dans le chat en mémoire des quelques rushs perdus dans L'Aventure Mademoiselle, qui était quand même très minoritaire.
Il y en a eu, oui, il n'y en a pas eu tant que ça. Quand même, mais celui-ci en particulier, je m'en souviens parce que c'était vraiment la loose et que j'avais un accès...
Il était
un
trop
accès...
bien. Tu me l'avais montré en avant-pro, tu m'avais montré des extraits. Non,
mais
trop bien,
vraiment,
trop bien,
j'avais,
trop bien.
J'avais accès au décor. Enfin, c'était incroyable. Bref.
Oh, il y a comme un diadème qui dit Team Toupet ici aussi.
Salut.
Hi,
Laure.
Hi, Team Toupet, comment allez-vous?
Laure, qui est sa boîte, c'est comme un diadème. Je l'ai interviewé dans Histoire d'argent. Un petit bon bec. Laure, miam, qui miam, miam, raconte qu'elle a épargné comme un écureuil névrosé, c'est le terme qu'elle a utilisé.
On ne se permettrait pas.
Avant de se faire arnaquer de 25 000 boules. En achetant une voiture.
Mais il y a un mec qui a posté sur Reddit France il y a deux jours en disant je viens de me faire arnaquer de 28 000 balles au calme. Et c'est en achetant une voiture sur Le Bon Coin.
Ah ouais.
La personne lui a donné un site qui avait l'air fiable en mode tu mets l'argent et il sera débloqué que quand j'aurai la voiture. Il n'y a jamais eu de voiture, l'argent il est plus
MDR.
Là. Ah, c'est dur. F dans le chat pour comme un diadème, plus que pour les rushs perdus.
C'était trop bien cette discussion avec Laure dans un parc à Montpellier, n'est-ce pas?
Oh, délicieux setting. Voilà.
Allez, écoutez mon podcast Histoire d'argent, c'est super. On va en parler.
En parler, hein, deux, trois podcasts que tu fais par exemple.
Tout à fait. Bon Mimi, je te laisse roue libre. Hein.
Oui,
à la base, je m'étais préparé un petit plan et tout, mais je me dis, let's go.
Écoute, comme ça, toi, tu sais ce que t'avais pensé que t'allais dire. Oui. Moi, j'ai des petites questions. Il y a des thèmes et tout, tout ça est très préparé.
Oh là là.
C'est-à-dire préparé il y a 40 minutes, mais préparé quand même. Et ma première question, c'est pourquoi t'as appelé et teasé ce live en l'appelant 3 ans post-mademoiselle et pas 3 ans d'indépendance?
Ah, bah parce qu'en fait, ça fait... Pour moi, c'est très... Très bonne question, Mimi.
Merci, Fabrice.
Vous devriez en faire votre métier.
J'ai été à bonne école. Une formation est disponible.
Alors déjà, y a plusieurs trucs. C'est que je sais qu'il y a pas mal d'anciens salariés qui ont beaucoup surfé sur « qu'est-ce que je fais après Mademoiselle ?»
Moi-même, mon premier live, c'était
« voilà,
je suis partie de Mademoiselle, on en parle.
Voilà. » Et que je crois que je me suis rendu compte... L'un des trucs dont je me suis rendu compte après avoir quitté Mademoiselle, c'est que je me suis beaucoup moins servi de Mademoiselle pour ma propre pomme que plein de salariés. Et en fait, c'était une démarche que je validais totalement et que j'encourageais, qui était tu viens chez Mad et en fait tu t'en sers comme un tremplin et peut-être après tu peux, si t'en as envie, lancer ta carrière solo, etc. Je pense notamment à des Kalindi ou à des Camille Laurent qui se sont très bien servis de Mademoiselle. Et encore une fois, c'est pas du tout péjoratif quand je le dis.
Non, ça faisait partie du projet aussi.
Voilà. Et je me suis rendu compte que en quittant Mademoiselle, déjà, par exemple, tu vois, j'avais quasiment moins de followers que tous ces gens.
Oui.
Alors que ça faisait 15 ans. Je parle sur Insta, sur mon compte perso.
T'es pas une meuf bonne, ce qu'il y a d'avoir des followers sur Internet.
Oui.
Mais, en effet, pardon, je vérifie juste un petit truc technique, hein, mais je t'écoute. Je vérifie juste si ça marche bien. Parce qu'on a Manon qui dit... Non, c'est bon. Ça marche. Ok.
N'hésite pas à refresh.
Chez moi, il y a écrit la diffusion est terminée, donc je vérifiais juste que ma connexion ne tape pas parce qu'on est chez moi.
Ah oui.
Parce que j'ai la fibre, j'ai une meilleure connexion. Donc je vérifiais que je ne t'ai pas trahi en te promettant une connexion fiable quand même.
Donc.
Pardon, oui.
Donc.
T'avais moins de followers.
J'avais moins de followers que Kalindi et que Camille, par exemple. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais jamais pris en compte pendant tout ce temps-là. C'était ma vie après Mademoiselle. Et même. Au moment de quitter Mademoiselle, je crois que j'aurais pu, si je m'étais bien démerdé, parce qu'en fait, en vrai, je savais depuis longtemps que j'allais quitter, depuis à peu près le mois de janvier, on va dire.
Oui, vendre une entreprise, ça se fait pas en oui. deux jours, c'est pas une démission. Et parfois, on vend une entreprise et on reste oui. pour au moins assurer une transition. Oui. Toi, tu savais depuis un moment que j'allais partir.
Je voulais trouver un vendeur qui allait me laisser partir. C'était un peu mon. Un acheteur, pardon. Qui allait me laisser partir. Et en gros. Je me suis rendu compte de ça et je me suis dit mais t'es un peu couillon quoi. Et c'est vrai que pendant toute une période, c'est intéressant par rapport à l'indépendance, c'est que on va en reparler sans doute, mais je crois que entre 2021 et 2022, j'avais enlevé Mademoiselle de tous mes bio, de mon Insta, etc. Parce que je voulais en faire un, je voulais devenir moi, tu vois.
Ouais.
Et j'avais un peu besoin, voilà, j'avais un peu besoin de couper ce truc et pour finir par le réembrasser de façon beaucoup plus tranquille et naturelle. Où aujourd'hui, je crois que j'ai mis un truc du genre fondateur de Mademoiselle entre 2005 et 2020, quoi, tu vois. Et ça fait effectivement, je sais que pour moi, 3 ans d'indépendance, ça veut pas forcément venir dire, ok, en fait, j'ai monté ce truc-là. Et je sais qu'il y a encore aujourd'hui plein de gens qui découvrent que c'est moi qui fondé Mademoiselle.
Yes.
Et que Mademoiselle est très connue et que je le vois d'autant plus. Je crois que je m'en rendais beaucoup moins compte quand j'y étais, en fait.
C'était ton taf, ton quotidien, tes prises de tête aussi.
En fait, c'est pas un truc, comment dire, je crois que tous les gens que je rencontrais, ils étaient dans le giron. Et ils savaient que j'y étais. Là où aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je suis plutôt connu pour les podcasts ou pour ce que je fais. Tu vois, je date aussi parfois des jeunes femmes et en fait, tout de suite, peu importe les âges, c'est très rare qu'il y ait des nanas qui me disent « Ah, ok, je connais pas, quoi. » Donc, c'est aussi intéressant d'avoir ce miroir-là que j'avais pas à l'époque et que je crois que j'ai pas embrasser suffisamment, mais on va en reparler sans doute, mais il y a tout un aspect hyper sacrificiel que j'ai pu avoir par rapport au projet pendant ces 15 années-là, ou en tout cas peut-être un peu moins pendant les 2-3 dernières années, mais où j'étais sacrificiel de ouf, et en fait ça passait aussi par ne pas utiliser entre guillemets le projet pour ma brand, pour ma marque perso, quoi.
Ouais.
Voilà.
Oui, t'avais ce côté où tu t'es au bout d'un moment assez peu mis en avant et au final, t'as gardé quand même Histoire de Daron qui était un de tes derniers vrais gros projets solo chez Mademoiselle que t'as continué après et Histoire de Mec qui était né chez Mademoiselle avec The Boys.
Histoire de Succès aussi, je l'avais démarré, tu vois, sur la toute fin.
Ouais.
Mais c'est vrai que je n'avais aucune idée. Pour moi, j'ai plutôt lancé Histoire de Succès en me disant j'en ai marre de plus faire d'interview en fait.
Oui, je pense que tu avais envie de créer un podcast plus que tu avais envie de créer un nouveau projet Mademoiselle.
Oui,
quoi. C'était juste, tant qu'à être là, autant le foutre sur Mad, mais tu savais déjà un peu qu'il y avait l'après. Il y a Manon dans le chat qui dit « Je réécoute de vieux LMK, donc laisse-moi kiffer », le podcast où on a tous les deux participé chez Mademoiselle. Et après la mort de Denis, donc ton mentor et ami qui est décédé en 2019 d'une façon brutale et inattendue, quoi. Et donc Manon dit « Après la mort de Denis, tu parlais déjà de faire un gros point dans ta vie. » Donc même avant d'avoir décidé de vendre Mademoiselle, tu avais déjà ce truc
en gros,
de « Est-ce qu'on a atteint une étape, quoi ?»
Avant la mort de Denis
Après la mort de Denis, mais avant d'avoir décidé de vendre Mademoiselle.
Ouais,
il y a eu
un
petit délai quand même entre les deux.
3 mois.
Ouais.
Que dalle.
Oui, pas beaucoup.
En fait, Denis est mort en février et je crois que j'ai pris cette décision-là en avril. Avril-mai peut-être, le temps d'atterrir et de savoir à peu près où je voulais aller et de me rendre compte qu'en fait je voulais plus être là-dedans. Donc ouais, sans doute j'en parlais, mais ça a été très vite et globalement la vente aussi de la boîte a été très vite. J'ai entre le moment où je suis rentré en contact avec Humanoïd à peu près au début de l'été, je crois.
Donc, le groupe qui a racheté Mademoiselle.
En juillet, je crois, un truc comme ça. On s'est pas vu pendant tout l'été, on s'est parlé en septembre. Et en gros, on a eu quelques mois de tractation, machin, et on est censé signer fin mars.
2020. Qu'est-ce qu'il y a eu en mars 2020, la MIF qui a pu recouper 2-3 trucs pro.
MDR. Putain, les gens qui connaissent que des numéros 10 dans mon podcast, la famille, quoi.
Parce que
vraiment, ça, en gros, c'était le premier nom d'Histoire de Succès. Que je voulais appeler que des numéros 10 dans mon podcast parce qu'il y avait un truc de je trouvais ça cool de faire cette petite ref à Booba, n'est-ce pas, si je me trompe pas, à B2O.
Et des numéros 10 dans ma team.
Et en fait je me suis retrouvé avec Zep qui est un mec qui a 60 balais, quoi, donc l'auteur et le créateur de
Titeuf,
et qui m'a dit il savait pas ce que c'était. Et j'ai dit, ok, en fait, c'est mort. Je veux pas avoir des invités qui comprennent pas le nom du podcast, quoi.
Donc, yes.
Et Histoire de succès, c'est très intéressant parce que ça, c'est pas forcément mon titre de podcast préféré, parce que je trouve que ça raconte pas ce que ça raconte, ce que le podcast raconte.
Ok.
Mais ça interroge toujours les gens.
Pourquoi tu trouves que... Pardon. Justement, moi, je trouve que c'est un bon nom parce que t'as plein de types de succès différents dans Histoire de succès. Ouais. Tu vois, t'as pas que des entrepreneurs, t'as pas que des athlètes ou quoi. Donc, c'est plein de gens... En fait, c'est plein de définitions du succès.
Mais en vrai, on parle pas de succès. C'est-à-dire qu'on parle pas du tout du succès. On parle beaucoup du chemin de vie.
Histoire de parcours. Mais ouais, c'est moins...
Parcours.
C'est juste un podcast sur les gens qui sont sur
Je voulais l'appeler Histoire de Cador parce que je trouvais ça sympa. Mais en fait, il y a plein de gens qui
connaissent pas ce terme. Ouais, pareil, c'est pas un mot très connu.
Cador.
Histoire de BG. Bonjour à Manon Portanier dans le chat. Hello Manon, qui dit Manon sur vous. Manon,
bonjour.
Qui est une employée de Mademoiselle de la verticale Daronne, qui parle de parentalité.
Salut Manon.
Et de maternité. Hello Manon, du love sur toi.
Ah oui. Bonsoir Madame Oleïtse. Oui. Première fois dans le podcast, dans le chat, pardon. C'est cool.
Oui, bonsoir et bienvenue. Puisqu'on
attends,
en parlait...
Il y a comme un diadème qui dit justement, beaucoup de gens aujourd'hui ne te connaissent pas de Mademoiselle, je pense. Moi, je t'ai connu via les podcasts. Oui, mais je crois que tu connaissais Mademoiselle, à mon avis.
Yes, mais tu savais pas que le mec qui fait les podcasts que t'aimes bien, c'est le fondateur de Mademoiselle.
Marrant.
Du coup, bah écoute, j'avais une question qui est, est-ce que maintenant, quand tu te présentes professionnellement notamment, tu parles de Mademoiselle, et si oui, comment?
Bah, je me présente comme le mec qui l'a fondé. Parce qu'en fait, ça, on ne me l'enlèvera jamais, quoi. C'est moi qui l'ai fondé, qui l'ai créé et qui l'ai dirigé pendant 15 ans. Et en gros, je dis ça. Je dis souvent, je suis fondateur et je suis le fondateur de Mademoiselle et je l'ai dirigé pendant 15 ans avant de le vendre en 2020 et de produire mes podcasts indépendamment.
Et donc, la réaction que tu as généralement, c'est des gens qui connaissent déjà Mademoiselle.
Bah,
t'as pas besoin de faire les bases. On parle beaucoup aussi de « on est dans nos bulles » et tout. Moi, sais la puissance de frappe qu'a eu Mademoiselle, où il y a un moment où, selon les trucs de métrique d'audience, des sites web et tout, quasiment toute la cible, à savoir les jeunes femmes françaises de 18 à 30 ans, avaient lu Mademoiselle au moins une fois dans le mois. C'était vraiment des chiffres débiles de « on a saturé le marché qu'on visait, finalement ». Donc il y a cette bulle-là qui est énorme de jeunes femmes qui avaient cet âge-là dans ces années-là. Mais je me dis, tu dois parler à plein de mecs, tu vois, des mecs de... Est-ce que Zep, il connaît Mademoiselle? Je sais pas, c'est un mec de 60 ans, tu vois. Peut-être pas, je sais pas.
Bah si... Tu vois, c'est très marrant parce que j'ai interviewé Olivier Bourdeau, qui est l'auteur de « En attendant Beau Jungles », là, donc... best-seller internationalement reconnu, le mec a été adapté, etc. Et en fait, donc il a 40 balais, je crois, Olivier, il est très très loin d'être dans la cible. Et en gros, quand on me l'a présenté, quand je me suis présenté à lui et que je lui ai dit, en fait, je suis le fondateur de Mademoiselle, il a capté tout de suite, il savait ce que c'était. Et après, il a googlé pour voir si on parlait de lui dans Mademoiselle et il a vu que Kalindi avait fait un article sur l'un de ses derniers bouquins qui s'appelle Florida, où elle l'avait mis dans, genre, les meilleurs bouquins de l'année, quoi.
Ah, ça va, ouf.
J'étais là, putain, ils ont du bon goût
toi, hein,
chez Mademoiselle.
Magazine,
j'étais là, oui, c'est Kalindi, quoi, c'est normal.
Elle
a du goût.
Oui, clairement. C'est quoi ton rapport à Mademoiselle maintenant, avec 3 ans de recul, 15 ans du coup de boîte, une boîte que pour rappel t'as vraiment lancée à la base solo dans ton grenier, donc un vrai projet de start-up qui est resté longtemps indépendant aussi. C'est quoi ton rapport à Mademoiselle maintenant, à cette aventure, à ce que le média a été, à ce qu'il est, comment tu te places?
C'est large comme question, mais...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En gros, c'est vraiment en fait, c'est une partie de ma vie énorme, tu vois, c'est vraiment 15 ans de ma vie et aujourd'hui j'en ai 45, donc c'est un tiers de mon existence, quoi, c'est un truc de ma boule. Aujourd'hui, c'est un projet sur lequel je me suis donné corps et âme, dans lequel j'ai vraiment mis, je crois aussi, beaucoup de mon âme. Et quand je dis ça, c'est très, à la fois très positif, mais aussi j'y ai un peu laissé de mon âme.
T'as peut-être mis un peu trop, ouais.
Ouais. Où j'ai eu un pro. En fait, je crois que l'un des trucs que j'ai fait en lançant ce projet, c'est que je comptais y mettre de la. Pour moi, c'était un projet qui avait tellement de sens, en fait, qu'il fallait tout donner dedans et que c'était pas possible de ne pas tout donner pour Mademoiselle.
C'est souvent, voilà, quand tu fais un projet qui a du sens, qui a un côté un peu faire le bien, tu vois, faire du monde un endroit meilleur, en tout cas, c'est l'ambition que t'as, bah, tu peux vite culpabiliser de pas t'y donner à 120% parce que en quoi ton petit confort est plus important que ça, tu vois. Exactement. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler quand on parle de burn-out militant, par exemple, de bah, qu'est-ce qui justifie que toi tu te prennes une soirée tranquille alors que. Il y a encore plus à faire, il y a toujours plus à faire. Mais on peut pas vider l'océan à la petite cuillère tout seul.
Ouais, exactement. Et donc ouais, j'ai sacrifié plein de choses. Je me rends compte avec le recul que j'ai aussi sacrifié mon temps de père avec mes filles, que j'ai sacrifié une grosse partie de leur enfance, en fait. Je crois qu'à l'époque... mais à l'époque, en fait, ça ne valait pas. C'est-à-dire que pour moi, Mademoiselle était vraiment ma prio number one. Et c'est une discussion qu'on a eue avec ma fille, ma deuxième fille aujourd'hui, qui a 15 ans. Je crois qu'elle a du mal à l'entendre encore pour elle, c'est compliqué. Elle a un peu cette sensation que je l'ai abandonnée. Et je le comprends. Et en fait, je m'en suis excusé. Je lui ai aussi dit que c'était hyper important pour moi de le faire à l'époque. Et en fait, de tout donner pour ce projet parce que je considère. Et donc, en gros, pour celles et ceux qui ne savent pas, mais j'avais des bureaux à Lille. D'ailleurs, tu étais dans les bureaux à Lille, oui, quand tu es arrivé en 2012.
Par l'époque.
Et la même année, je crois, j'ai ouvert des bureaux à Paris. Ça faisait, en vrai, ça faisait 4 ans, 3 ans, 4 ans que j'étais vraiment en train de réfléchir à... Même plus, je crois. En vrai, depuis 2007-2008, je me disais...
Sachant que le magazine est né en 2005. Ouais. Mais toi, tu étais déjà beaucoup à Paris pour tout ce qui était business, commerce, ouais, faire grandir la boîte et tout. Et du coup, bah, ça a créé aussi un problème de... parce qu'à l'époque, t'étais rédac chef. Et en fait, t'étais au four et au moulin. T'étais rédac chef et PDG et directeur commercial et tout. Et t'étais toi-même déjà beaucoup à Paris. Donc oui, l'étape logique d'ouvrir des bureaux à Paris, elle s'est présentée en 2013. Je sais que j'ai fait un an à Lille et après, il y avait littéralement plus que moi dans les bureaux à Lille. Ouais. Et j'étais là, bon, ferme.
Et j'avais attendu parce que je n'avais pas envie, en fait, de quitter ma vie de famille et de... Je me souviens que l'un des trucs les plus durs au départ, c'était de pas faire mon bisou du soir à mes filles et d'aller leur lire une histoire parce que c'était un truc que je faisais.
Parce que du coup, t'étais à Paris 3 jours par semaine.
Ouais, j'étais à Paris 3 jours par semaine.
Genre mardi, mercredi, vendredi, jeudi, quoi. Donc t'étais là, notamment les week-ends et tout en famille, mais oui, t'étais plus là tous les jours, quoi.
Voilà. Et je sais que ça a été un peu dur pour elle au départ, mais je crois que j'étais pas du tout prêt à l'entendre et que je voulais surtout pas l'entendre. Et que il y avait aussi une vie qui s'ouvrait à moi, parisienne, on va dire, où c'était des opportunités de maboule pour la boîte et aussi pour moi en termes de découverte, de rencontres, de gens, etc.
Ouais, de moments de vie chouettes, quoi.
Ouais, qui compensaient un peu ce truc, quoi. Mais c'est sûr que ce que je disais à ma fille, c'était que c'était hyper important pour moi de le faire à l'époque et de cocher cette case-là. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment la sensation d'avoir coché une case de réussite professionnelle qui est, en fait, au top. Je crois que je m'en rendais pas compte sur le moment. Aujourd'hui, plus ça va, plus je m'en rends compte. De, ok, t'as quand même créé un truc qui est maousse, quoi.
Tu te rends plus compte maintenant de l'ampleur qu'avait Mademoiselle et de l'ampleur de ce que t'as créé. Ouais. Bah ouais, je comprends. Bah, on en avait parlé dans ton histoire de succès. Où c'était une bonne discussion aussi sur à quel point Mademoiselle ça a représenté, ça continue à représenter beaucoup pour beaucoup de monde. Donc le pari de faire quelque chose qui a du sens et qui fait du monde un endroit meilleur, je pense qu'il est réussi. Mmh. Et pour toi aussi, tu vois, ça a aussi guéri des petites blessures, etc. chez toi. Donc ouais, tu peux être fier, ouais, je pense.
Plein de choses.
On a quelques questions sur le chat. Ouais. On a Manon qui demande, est-ce que tu y penses encore au quotidien? Est-ce que ça t'est sorti de la tête? Et Berna qui demande, est-ce que tu continues à lire Mademoiselle?
Alors non, j'y pense plus au quotidien. En fait, j'y pense quand on peut se voir, toi et moi, mais encore, on en parle quasiment. Enfin, on parle plus.
Bah, moi, ça fait un an et quelques que je suis partie, donc j'ai plus de quotidien de la boîte à raconter. Oui, on parle un peu des souvenirs de...
Un peu.
On a beaucoup de souvenirs communs, oui. En fait, donc, qui sont liés au fait qu'on travaille ensemble chez Mademoiselle. Mais on n'est pas là en mode, ah, chez Mademoiselle, c'est le bon vieux temps, vas-y, on va se regarder des vieux vlogs et tout. On est plutôt.
Là,
à...
tout à l'heure, on a tourné des films club, par exemple, on a parlé de masculinité. Bon, bah, ok, en fait, c'est un lien qu'on a tous les deux, qui date de l'époque de Mademoiselle, mais c'est pas. Enfin, j'y vais pas tous les jours. Je sais que pendant, je crois, peut-être 3 mois, j'avais ce réflexe automatique. Je sais pas si c'est un truc que tu faisais aussi, où dès que j'ouvrais un nouvel onglet, je tapais M.
Moi, je tapais mail mimi@mademoiselle.com. Ouais. Genre, j'ai vraiment failli donner, en voulant donner mon nouveau contact pro à des gens, leur donner mon mail pro qui marche plus du tout. Donc ça, ouais, la mémoire musculaire, elle est réelle. Hein.
Elle est pendant quelques mois, en fait, à chaque fois que j'ouvrais un nouvel onglet, je tapais M parce qu'en fait, systématiquement, mon M amenait sur Mademoiselle. Le oui. M tapait ouvrez Mademoiselle et en fait moi je passais mon temps à aller voir ce qu'il y avait de nouveau sur le site en permanence. Enfin, c'était une vraie drogue et je crois que ça je l'ai beaucoup sous-estimé, l'aspect drogue du quotidien de la cam de d'être dans l'actu chaude en permanence.
Ouais. Et c'est aussi le piège des magazines web, c'est qu'on a les audiences en direct, tu vois, tu peux toujours aller voir Google Analytics, etc. Là où si tu sors un magazine papier, bon, bah, les ventes, tu les as à un instant T, quoi. Ouais. Tu peux pas les avoir en direct tout le temps, et sinon tu deviens fou. Donc,
non, j'y pense pas, et en fait, c'est vraiment sorti de ma tête aujourd'hui. C'est plus un truc, enfin voilà, j'en parle quand, parce que ça fait partie de mon histoire. Pour le coup, je crois vraiment que j'ai fait la paix avec ça par rapport à peut-être pas l'année passée, mais 2021. Et est-ce que je continue à le lire, c'est ça ?
Ouais.
Au quotidien ? Non.
Non, bah j'avoue que moi non plus. Je vais lire
ça
le forum des fois.
Très longtemps que je suis. En fait, les fois où je crois que les moments où je le lisais, c'est quand tu m'écrivais et que tu me disais j'ai écrit un article cool à l'époque où tu y étais et que tu me l'envoyais, mais sinon je n'y allais jamais. Et de temps en temps, quand j'y vais, c'est plutôt pour retrouver des vieux trucs que j'ai pu faire ou écrire en référence, où je vais plutôt les liker. Mais sinon, je vais pas lire Mademoiselle au quotidien. Non, plus du tout. Enfin, ça m'intéresse plus en fait.
Bah du coup, bon, on va y répondre quand même, mais je pense que la question est évidente parce qu'il y a Naïm Adel qui demande si on te demandait de revenir reprendre Mademoiselle, est-ce que tu reviens ou est-ce que tu as tourné la page de manière définitive.
Façon Steve Jobs.
Et tu l'as dit, il y a une différence entre je le lis pas, ça m'est sorti de la tête et What if you could do it again, tu vois, et c'est retour le chef et tout ça, tu vois.
Alors je crois pas que je le ferai, je crois pas qu'on me le proposerait non plus. En fait, je le remonterai jamais et je le redirigerai jamais de la façon dont je l'ai dirigé parce que j'avais tout sur les épaules, quoi. Et ça, c'est un truc que je veux plus jamais faire dans ma vie.
Yes, on va en parler, je pense. J'ai 2-3 questions sur le sujet.
Oui.
On a Manon qui dit, pour moi, Mad, c'était une chaîne YouTube qui expliquait la vulve et les Mad Gyver. C'était aussi ça, Mademoiselle. C'était beaucoup de choses, Mademoiselle.
Ouais, c'est clair. C'était pour le coup, c'était très polymorphe et... Bah, je voyais quelqu'un tout à l'heure quelqu'un parlait de LMK. Je crois que pour plein de gens, Mademoiselle, c'était aussi LMK et que LMK. Oui. C'était marrant parce que je m'étais retrouvé j'étais allé en Inde en 2017, là, dans le cadre de ma thérapie, etc. Mm-hmm. Et c'est marrant parce qu'il y a une nana de, je sais pas, 50, 55 balais, qui était venue avec sa fille, qui avait donc 20 ans. Et tu vois, de fil en aiguille...
J'arrive pas à imaginer aller à 20 ans en Inde en thérapie avec ma daronne, mais incroyable vie.
Bah, hein. C'était en fait, j'ai trouvé ça cool parce que c'était une expérience mère-fille trop chouette, quoi. Je crois que pour elle, c'était vraiment très chouette. Pour les deux, d'ailleurs. Et en fait, je raconte à cette fille que j'ai monté ce truc qui s'appelle Mademoiselle et tout. Et tu vois, je me dis, bon, peut-être que tu connais. Et elle me dit, ah ouais, c'est la chaîne YouTube. Je fais, ah ben non, c'est... Enfin oui, c'est une chaîne YouTube, mais non, avant tout, c'est un site internet, tu vois, mademoiselle.com. Il y a plein d'articles et tout. Et elle me dit, connais pas, moi, j'ai juste la chaîne YouTube. Et ça m'avait fait marrer qu'elle ait jamais pensé, tu vois, à taper Mademoiselle dans Google, surtout qu'il y avait plein de liens. Enfin, dans la chaîne YouTube, il y avait des liens régulièrement.
On faisait référence à des
sur le site, quoi.
C'était pas un secret, le fait qu'il y ait un magazine derrière. Mais il y a aussi, Mademoiselle est aussi un média web qui a vécu le shift du web écrit au web très vidéo. Et je pense qu'il y avait juste des gens que ça intéresse. Il y a des gens que ça intéresse pas d'écrire des articles,
ouais,
tu vois, et
sûr.
Qui ne consomment que de la vidéo. Tard à l'époque sur YouTube, mais maintenant sur Twitch, coucou, sur TikTok, etc. Bon, on a tout eu. On a eu des gens qui m'ont dit, ah, tu travailles chez Mademoiselle, donc ta chef c'est Marion Seclin et tout. J'étais là, mais elle est même pas employée de Mademoiselle, de quoi on parle? Parce que Marion était freelance pour Mademoiselle. Donc bon, on a eu tout et n'importe quoi en termes de, c'est un truc tellement protéiforme, plus bah, les magazines web, tout le monde connaît pas exactement comment ça se passe et tout. Que, oui, les gens avaient tous. C'est un peu comme, tu sais, cette fable de. Il y a trois aveugles qui sont face à un éléphant. Et ils savent pas à quoi. Et on leur dit c'est un éléphant. Ils sont là, je sais pas ce que c'est un éléphant. Et du coup, bah, pour savoir ce que c'est, ils le touchent. Et il y en a un qui touche un pied et qui dit ah, bah, c'est quelque chose, c'est comme un gros pilier très solide. Il y en a un qui touche la trompe et qui dit mais non, pas du tout, c'est comme une liane hyper souple. Et un qui touche l'oreille et qui dit mais non, c'est une grande aile de cuir. Et du coup, personne ne sait à quoi ça ressemble un éléphant. Voilà. Si tu prends Mademoiselle par LMK, par la chaîne YouTube, par les récaps rigolos, par les articles de cul, par les recettes de cuisine, par les articles d'actualité, par tout ce que tu veux.
Et en fait, je me rends compte aujourd'hui à quel point ce côté protéiforme et foisonnant, etc., me ressemble de ouf, en fait. Mais je m'en rendais pas compte sur le moment. C'est juste, c'est un truc que j'insufflais dans la boîte de façon extrêmement, je crois, naturelle, où j'allais chercher des gens qui adoraient ça, tu vois.
Bang, ça brille, voilà. Quoi.
J'allais chercher des gens qui adoraient. C'est très marrant parce que pour moi, c'était important de pouvoir faire des trucs que tu... Si jamais tu pouvais faire des trucs, fallait le faire, quoi, tu vois. Du genre...
Oui.
Élise Francis, à l'époque, bah, t'as envie
Rédac Mode.
Rédac Mode, donc. Styliste, rien à voir. Et en fait, tiens, t'as envie de tester de faire des vidéos, bah, let's go faire des vidéos. Et en fait, elle déchirait, quoi.
Oui.
Pareil pour Camille, Queen Camille, quoi, qui aujourd'hui vit carrément de sa chaîne YouTube.
Du stand-up.
Et du stand-up, oui. Je crois qu'elle vit plus de sa chaîne YouTube que du stand-up pour l'instant. Mais... et ça fait plaisir aussi, tu vois, ce truc de bah tiens, si t'as envie, teste.
Bah, moi, je suis quand même arrivée chez Mademoiselle en refusant de faire de la vidéo, en n'étant pas employée pour écrire. Donc, moi, j'étais pas partie pour être légitime, n'est-ce pas, pour écrire, en n'ayant jamais parlé dans un micro de ma vie. Et here we are. Donc, de quoi cette. Ouais, tu as deux, trois exemples de le flair, quoi. Il y a Wilmo Wheeler qui dit « Ça manque vraiment à l'internet français, mademoiselle. Les bandes de meufs sur YouTube, ça n'existe plus. » C'est vrai que j'en vois pas trop. Après, je suis pas très calée en YouTube. Je sais que sur Twitch, il y a un peu... Tu vois, il y a Horty Baguera et tout. Il y a des meufs potes qui font souvent des lives ensemble et tout, qui streament ensemble et où bah, leur amitié et parfois aussi leur relation pro fait partie de... ça crée une commu un peu fédérale, quoi. Mais c'est pas autre... Enfin, c'est pas des gens qui sont collègues et qui bossent ensemble au quotidien, quoi.
En fait, c'est ça. Et surtout... En vrai, ce qui était intéressant, c'était que c'était une marque, Mademoiselle, qui regroupait plein de talents.
Oui, c'était pas une bande de potes qui ont créé leur chaîne.
Des gens individuels qui se sont dit « Ok, venez, on va faire un truc ensemble. » Je crois comme la YT Family, là, tu sais, à l'époque, votre pote parlait Jigme et tout, quoi. Non, mais Mimi, YouTube, le YouTube game de Mimi...
Nul. Je connais des chaînes de cuisine vachement cool, voilà. Hier, sur ma chaîne, on a regardé une vidéo de Choumicha.
Tu connais Jigme?
Bah, je le connais parce que tu m'en as parlé.
Ouais.
Du coup, non.
Il fait de la cuisine et tout.
J'ai essayé de me trouver une niche, mais même pas.
Mais à l'époque, c'était lui qui avait fédéré des tas de youtubeurs avec Andy Raconte. Ok, laisse tomber, très bien.
Encéphalogramme, là, voilà. Ouais. J'ai préparé des questions, j'ai pas révisé YouTube, désolé. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur Mademoiselle? J'avais pas prévu 1000 questions. J'ai une question, mais je pense qu'elle est trop vaste, qui est. Avec le recul, tu retiens quoi de 15 ans de MAD? Mais bon, c'est énorme, tu vois. C'est quand même.
Ah bah, ça mériterait un bouquin.
Voilà, et bah, un jour, peut-être, chez Albin Michel.
Ouais.
Du coup, passons au maintenant.
Ouais.
C'est quoi ton travail?
Bah, aujourd'hui, je suis producteur de podcast.
Ok. Je crois qu'il y a un an ou deux, tu disais je suis podcasteur indépendant. Tu disais pas je suis producteur.
Ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dire podcasteur. Ça sous-entendait que j'avais un seul podcast.
Ok.
Et que je me suis rendu compte qu'en disant producteur, déjà, alors c'est marrant parce qu'il faut aussi souvent que je précise que je produis mes propres podcasts.
Oui. Producteur, il y a l'idée de toi, t'es pas au micro, mais tu produis des gens qui sont au micro.
Ce qui est peut-être un truc que je ferais à un moment ou un autre, hein, tu vois, mais pour l'instant, c'est pas vraiment ma vibe. En tout cas, c'est une porte que je me laisse ouverte. Mais.
Fab Flow Prod.
Ouais. C'est le nom de ma boîte. De ma boîte. Oui, c'est vrai que c'est le nom de ma boîte. Mais ouais, aujourd'hui, je me présente plutôt comme producteur de mes propres podcasts et d'interviews. Voilà. Je dis ça parce que c'est globalement ce que je fais. C'est des podcasts d'interview, donc je dis que c'est ça.
Est-ce que tu es content de ton travail? Est-ce que tu es heureux au travail?
Alors, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion justement la semaine passée, 16 juillet 2020. trois ans que c'était cool en fait de regarder un peu en arrière et de me dire que c'était vraiment, en fait, c'était vraiment un virage très compliqué à, avec le recul, très très compliqué à prendre et que
le virage de Mademoiselle à l'indépendance.
Le virage de Mademoiselle à rien. Parce qu'en fait, je sais pas trop, si je l'ai dit, mais je savais pas du tout ce que je voulais faire après Mademoiselle. Je me souviens très bien quand je vous ai annoncé que je vendais Mademoiselle tout début mars, parce qu'on était censé signer fin mars, dernière réu mensuelle, souvent le premier mardi du mois. Je dis à tout le monde, bon bah voilà, j'ai une annonce à vous faire. Je vais vendre et quitter Mademoiselle parce que je veux faire autre chose.
Sachant que quand même, pour préciser pour les gens qui se disent peut-être « Waouh, tu leur as dit un mois avant », les cadres, c'est-à-dire moi et les directrices de département, on était au courant bien sûr depuis plus longtemps et on avait pu préparer la suite, etc. avec Fab. Là, c'était juste l'annonce à absolument à tout l'équipe. Le monde, y compris la stagiaire qui vient d'arriver, la graphiste, la dev et tout. Tout le monde avait maintenant l'info, quoi.
Et je me souviens très bien qu'Alindy me croyait pas quand je lui disais que je savais pas ce que je voulais faire. Elle m'a dit, mais tu vas faire quoi après? Je lui ai dit, bah, je sais pas. Elle m'a dit, mais non, mais c'est pas possible, tu veux pas nous le dire? Je lui ai dit, non, je sais pas.
Alindy, elle t'embrouille, évidemment.
Bien sûr que Alindy m'embrouillait, c'est la meilleure embrouilleuse. Une relation très, très intéressante avec Alindy.
Oui.
Et en fait, je n'ai pas pensé à ce que je voulais faire après parce que c'était impossible pour moi de savoir ce que je voulais faire après tant que j'y étais. C'était vraiment impossible. Et surtout, c'était un trop gros saut dans le vide, en fait. J'avais besoin de faire ce saut dans le vide avant de récupérer la Lien d'après.
Oui. Et rappelons aussi qu'on est en plein Covid, au début du Covid. Donc, c'est aussi dur de se projeter en général sur qu'est-ce que tu peux imaginer professionnellement dans un monde où on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette Zumba et tout ça. Donc, je pense que même hors Covid, t'aurais eu ce truc de j'ai besoin d'être parti pour décider ce que je vais faire après. Mais le contexte n'aidait pas non plus à se projeter dans l'avenir de façon très précise, quoi.
N'était pas facile. L'autre truc qu'on n'a pas dit, mais c'est que début 2020, on s'est séparé avec ma femme avec qui on était depuis 25 ans. Donc ça aussi, un sacré d'elle. Mais tout ça,
l'année de tous les changements.
Tout ça est très lié à la mort de Denis dont on parlait tout à l'heure. C'est que en 2019, ça me fait vraiment une sorte de wake up call, comme on dit, ok, il est temps d'y aller, il faut partir, quoi.
Oui, tu fais le point, comme tu dis, un gros point sur ta vie, et c'est parfois là qu'on prend des grandes décisions.
Ouais, mais ouais, pour répondre à ta question, aujourd'hui, je suis vraiment heureux. C'est-à-dire que je me lève le matin et je suis content de ce que je fais. Non seulement je suis content de ce que je fais, là tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai fait deux interviews, un daron, une daronne, c'était ultra puissant. Je connecte avec des gens. En fait, je n'aime que ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte avec le temps que vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me retrouver avec des gens et de connecter avec eux humainement.
Intimement, émotionnellement.
Intimement, émotionnellement, limite même spirituellement, tu vois, si tu veux y mettre un peu de ça aussi. Il y a un vrai truc de...
Il y a un truc d'âme, un peu.
Il y a des invités avec qui, vraiment, j'ai l'impression qu'on a des âmes connectées, quoi, tu vois, qu'on se parle d'humain à humain, tu vois, avec un grand H. Et ça, c'est vraiment ma zone où je suis dans le flow, en fait. Vraiment, c'est très, très rare. Dans le fab flow. mais ouais, c'est très rare, tu vois, où je me retrouve dans des interviews où je me sens pas à l'aise, pas à ma place, ou pas en contrôle. Parfois, ça peut être bien aussi de pas être en contrôle, tu vois. Je suis très rarement, en fait, je dis ça, mais je suis très rarement en contrôle parce que j'ai pas de notes, je sais pas où je vais. C'est juste hyper, c'est vraiment de l'impro. Mes interviews très souvent.
Il y a Manon dans le chat qui demande est-ce que ça t'arrive les interviews qui marchent pas, qui prennent pas? Et je pense que c'est un peu de ça, c'est ce truc de ça prend pas des fois. Tu sens que la mayonnaise elle prend pas, le courant il passe pas, la personne n'arrive pas à s'ouvrir ou toi t'arrives pas à l'atteindre. Et c'est genre. Et peut-être que pour quelqu'un qui écoute, c'est genre ouais, c'était une bonne interview, c'était intéressant. Et toi t'es là, non. Une bonne interview, c'est pas c'était intéressant, c'est genre waouh, c'était une bonne interview de fou, quoi.
Ça m'arrive et c'est l'occasion de placer d'en placer une petite pour j'en parle dans ma formation que j'ai créée là il y a quelques mois.
T'inquiète, j'avais des questions placement produit.
Ouais. Où en fait ça m'arrive d'arrêter quand je sens que ça va pas. Mais pas de l'arrêter l'interview complètement, de juste dire OK, vas-y viens on fait une pause, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Prenons le temps d'en discuter si tu veux et tout. Et ça crée une nouvelle dynamique. J'ai fait ça 2-3 fois. C'est très intéressant.
Par exemple, t'aurais aimé faire ça avec Alexandre Assier.
Par exemple, voilà. Oui.
Vous pouvez googler Fabrice Florent interview Alexandre Astier pour avoir le contexte de cette.
N'hésitez pas, j'en parle également dans ma formation. C'est un petit cadeau, voilà, que je vous offre. Enfin, c'est pas un cadeau puisque la formation est payante.
Mais... c'est un bonus. Voilà. C'est un bonus pour avoir payé. Mimi, combien de coupes de cheveux as-tu durant tes 10 ans chez Mademoiselle?
Putain.
Beaucoup. Coupes et couleurs, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Il y a une question que je trouve très intéressante de Amilaya, c'est qu'est-ce que tu as fait les premières semaines quand tu ne savais pas encore ce que tu voulais faire? On revient tout petit peu en arrière, donc dans cet entre-deux où tu quittes Mademoiselle pour rien, n'en déplaise à Kalindi Rompfel.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as fait?
Donc je suis déjà parti 2 mois et demi en vacances, ce qui était complètement dingue. C'était mes premières vacances avec mes filles et en gros je les avais pendant 1 mois. Pendant ces vacances-là. Et après, je suis parti 1 mois et demi de mon côté. Et c'était canon. Je suis rentré mi-septembre. Ça me démangeait un peu. Tu vois, fallait y retourner, quoi.
Ouais.
Mais fallait y retourner pour faire je sais pas quoi. Et en gros, j'étais reparti. Je crois qu'il y a Laure qui posait la question tout à l'heure, mais tu avais déjà des podcasts. Et en fait, je suis reparti avec Histoire de Daron et Histoire de Succès. Mais donc
ces deux podcasts, quand tu dis t'es reparti, c'est-à-dire quand t'es parti de Mademoiselle, tu les as gardés en ton nom, ils n'appartenaient pas au magazine,
c'était...
et tu pouvais les développer ou les arrêter, en faire ce que tu veux. En tout cas.
C'était des podcasts qui n'ont jamais été affiliés au magazine en tant que tel. Je me souviens à l'époque où on a lancé Rocky, je trouvais ça cool de passer Histoire
Rocky,
de Daron.
Le magazine annexe à Mademoiselle qui parlait de parentalité, avant de devenir une verticale de Mademoiselle qui s'appelle Daron maintenant. Sorry, je fais les notes de bas de
page. T'as bien raison, mais à titre personnel, moi je voulais pas que ça s'appelle Daron, parce que pour moi ça parlait pas que de parentalité et de paternité, et de maternité en fait, pardon. Mais ouais, quand j'ai lancé Rocky, je me trouvais que c'était une bonne idée de glisser, mais encore une fois, tu vois, j'avais ce projet qui était à moi, et en fait je l'ai réinjecté dans le projet Mademoiselle, sacrifice total, et en même temps, il y avait un côté, bah, c'est tellement malin, parce que ça vient apporter au projet Mademoiselle, quoi. Quand j'ai quitté, bah, il a fallu désolidariser tout ça. Mais effectivement, j'avais déjà ces deux podcasts. Donc, je me suis retrouvé assez rapidement à me dire, mais c'est cool, je vais pouvoir lancer mes podcasts. J'arrivais un peu à les monétiser à l'époque. Donc, je me disais, c'est bien, ça va me faire un peu d'argent et tout. Mais je me suis rendu compte que sortir 2 podcasts par mois d'Histoire de Daron et 1 podcast par semaine d'Histoire de Succès, bah, très vite, en fait, j'allais m'emmerder, en fait. Parce que par rapport au rythme de travail chez Mademoiselle, c'était...
très peu.
Une goutte d'eau, quoi.
C'était très light.
Une très goutte d'eau.
Et est-ce que tu t'es pas dit, je vais... alors, sur, entre autres, sur tes conseils, je suis en train de lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est un bouquin de coaching de temps de travail, je dirais, qui vise à travailler 4 heures par semaine tout en gagnant sa vie. Et du coup, quand tu t'es rendu compte que publier tes podcasts, ça allait pas te prendre beaucoup de temps, est-ce que tu t'es pas dit, bah cool, mon temps de travail par semaine est réduit et je peux faire d'autres trucs du reste de mon temps, tu vois. Est-ce que tu t'es pas dit, ah bah j'ai... tel hobby, telle envie, tel voyage, tel bénévolat, tel machin. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais taffer, tu vois?
Alors déjà, c'était le Covid encore.
Ouais.
Donc, c'était,
oui, c'est vrai.
C'était
voyager tout
très chiant parce que tu pouvais pas voyager. Moi, j'avais prévu d'aller à New York après la vente de Mademoiselle mais pour aller voir mes amis, mais finalement, ça n'a jamais été possible. Et en fait, j'ai commencé assez rapidement à me remplir mon agenda et en me rendant compte que c'était débile parce que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, mais juste... la peur du vide était incroyable. On va en parler un peu après, mais grosse thérapie aussi depuis 3 ans. Et je me souviens que le truc qui m'a débloqué, mais on avait parlé dans l'histoire du succès, je crois, c'est vraiment de m'être foutu sur ce jeu vidéo qui s'appelle Hades et d'avoir rien fait d'autre pendant, je crois, 48 heures.
Bon jeu pour rien faire d'autre, Hades. Ouais. Très addictif.
Où j'ai, tu vois, je me lavais pas. Enfin, j'étais vraiment en mode...
yes.
Rien à foutre.
Moi, quand j'ai découvert Stardew Valley.
Ouais.
Oups.
C'était honteux. Et en fait, c'est un truc que je m'étais jamais
autorisé,
offert pendant ces 15 ans de 48 heures sans rien faire du tout, que juste kiffer sur un jeu vidéo, un truc improductif au possible, mais en même temps tellement kiffant.
Oui, en fait, t'es là, même en ayant envie d'actualiser tes mails, etc., bah, il se passe rien, en fait, parce que t'es plus le PDG de Mademoiselle, t'as plus 1 milliard de personnes et de communiqués de presse et de machins qui ont besoin de toi. T'es juste en mode, bah, si j'ai personne qui me confirme une interview, il se passe rien.
Oui.
Et du coup, on va faire des trucs. Très bonne question de Luigi. Es-tu tombé malade juste après la vente quand les nerfs se sont relâchés?
Alors non.
Le classico, je tombe malade en vacances, tu sais.
Non, j'ai guéri mon mal de dos qui me pourrissait la vie depuis 4 ans, 5 ans même, même plus en vrai, 2014 ça a commencé, donc mais non, oui, c'est 6 ans. C'est vraiment ce mal de dos, je sentais bien qu'il était somatique. Hein.
Oui, il est allé voir, je me souviens, un ostéo, je crois.
Je suis allé voir tout le monde, des médecins du sport, des ostéos, et des ostéos, je me suis fait pendre par les pieds, je me suis fait
acupuncturiser,
le kiné, etc. Et le jour où j'ai vendu MAD, je crois, vraiment à la fin de l'été, j'avais plus de mal de dos et j'en ai plus jamais eu. J'ai plus jamais eu mal au dos.
Depuis ouais, c'était
ans.
Les brûlures d'estomac, donc écoute.
Oui, yeah, on adore.
Yeah. Est-ce que quand tu travailles,
oui,
tu sens que tu travailles? Parce que tu dis que t'aimes ton travail. Est-ce que t'as un mode travail et un mode pas travail? Est-ce que quand tu bosses, t'es en conscience que tu bosses?
Oui, mais en fait, comment dire, mon boulot est toujours dans ma vie perso. De façon systématique.
Comment ça?
Bah, j'y pense toujours.
Ok, toujours dans ta tête.
Ça ne s'arrête jamais. Mais en fait, ça s'arrête jamais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pression et de sacrifice. Et de. Si on rate la news qui est sortie pendant la nuit, en fait, potentiellement, on ne fait pas des bons chiffres demain matin.
Et sans la pression de. Si on fait pas des bons chiffres, boule de neige, boule de neige, boule de neige, à la fin je peux pas payer les gens quoi. C'est pas voilà. Ce jour-là on a raté une news, mais c'est si on rate trop de news et qu'on fait trop pas de bons chiffres et que d'un moment du coup il y a moins d'annonces. Enfin voilà, c'est tu 30... à la fin t'as la responsabilité.
À la fin quand j'ai vendu la boîte il y avait 30 salariés. Hein.
C'est beaucoup de responsabilité.
Aujourd'hui je me rends compte que c'était trop de responsabilité par rapport à ce que j'avais envie de faire à la base, qui était je voulais créer un endroit où je pouvais publier du contenu parce que ça me faisait marrer. Et après, d'en faire un endroit cool. Où
comment
les gens...
on a fini avec trop de comptabilité?
Ouais.
Le classico.
Ouais.
Bah, du coup, tu dis que tu as maintenant peut-être un rapport moins sacrificiel aussi à ton travail, oui. Que tu as fait la paix et compris plein de choses sur comment tu as géré Mademoiselle, qu'on va en parler, il y a eu 3 ans de thérapie, etc. On va peut-être parler du coup de cette thérapie et de comment ces 3 ans de thérapie ont pu changer ton rapport au travail.
J'ai trouvé des questions cool là.
Yes,
le chat.
Vas-y.
Il y a Claire Ichoux qui demande, est-ce que tu as eu peur de perdre tes contacts pro après la vente de Mademoiselle, de devoir te faire un nom propre? Clairement, ça a été un vrai truc et je sais que j'ai perdu des contacts.
Quand tu dis que tu les as perdus, c'est dans le sens ça les intéressait plus de oui. bosser avec toi. Pas la puissance oui, de frappe de Mademoiselle.
Exactement.
Okay. C'est pas t'as perdu leur mail quoi.
Non. J'avais un accès avec Mademoiselle. On avait des accès à tous les junkets de cinéma.
Yes. Donc les interviews des stars, etc.
On y allait quoi, tu vois.
Puis même les projets, les aventures.
Aujourd'hui, je sais que les podcasts dans le monde du cinéma, c'est un peu plus compliqué. J'y mets un doigt de pied de temps en temps parce que il y a une attachée de presse qui a compris ce que je faisais et qui trouve ça cool. Mais sinon, globalement, c'est vachement plus dur parce que ils ont
t'as
un temps limité.
T'as pas eu Nolan dans Histoire de succès
non.
pour Oppenheimer.
Alors que j'avais une super interview à faire avec Nolan.
Ou Gosling dans Histoire de mec.
Oui.
Barbie.
Oui. Et ça, pour l'instant, c'est des trucs que j'ai perdu, entre guillemets. Mais c'est pas grave, en fait. Tu vois, je me dis, le cinéma veut pas de moi, bon, bah, c'est pas grave, on trouvera une autre façon. Et en fait, le cinéma, à un moment donné, il pourra plus faire sans les podcasts. Je le sais. Parce qu'aux oui. US, ils peuvent plus faire sans les podcasts. Donc ça arrivera en France.
Et c'est aussi ton héritage, Mademoiselle. Au début, Mademoiselle, ce petit site lillois pour les meufs, je pense que ça intéressait pas les annonceurs, les machins et tout.
Oui.
Et qu'au bout d'un moment, ils étaient là, bah, c'est bien d'être chez Mademoiselle quand même.
Mais justement, c'est que l'un des trucs qui a été dur pour moi à travailler, c'était, et que sur lequel j'ai dû bosser, c'était, ok, faut que je redémarre tout à zéro. Et tu vois, par exemple, quand je me suis lancé sur YouTube en janvier 2022, je crois, j'ai eu un peu ce truc au départ hyper enchanté de trop bien, je me relance et c'est cool parce qu'en fait je teste des trucs que j'ai jamais fait par les facecam, j'en ai pas fait beaucoup des vidéos facecam d'une manière générale, j'étais plutôt derrière la caméra.
Ah oui, sur Mademoiselle t'étais vraiment beaucoup derrière la caméra
ouais.
quoi.
Et je trouvais ça trop cool et en fait mes vidéos, d'ailleurs je vous invite à aller écouter mes vidéos, à regarder mes vidéos parce que je les trouve trop chouettes en vrai.
Abonnez-vous, activez la cloche.
Elles ont pas
décollé.
Elles ont pas percé comme j'imaginais. Et en fait, j'avais vraiment ce truc de... Je crois que ça me fait chier de tout redémarrer à zéro. Ce que j'ai fait pour Mademoiselle quand on a lancé la chaîne YouTube de Mad, elle a démarré à zéro, quoi.
Oui. Ensuite, on a lancé plein d'autres chaînes YouTube voilà. qui ont démarré à zéro aussi.
Mais j'ai passé un temps fou à créer des vidéos, à faire des sessions acoustiques, des street style, enfin à créer du contenu pour faire en sorte d'agrémenter cette chaîne. Et j'avais, tu vois, pour le coup, beaucoup moins la foi de le faire avec... mes contenus et de me dire ok bon, j'ai 40 et quelques balais là, est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner? Non, pas tant en fait. Donc à un moment donné où j'ai arrêté en me disant peut-être j'y reviendrai, mais pour l'instant c'est pas un truc sur lequel j'ai envie d'investir du temps et de l'argent.
Est-ce que c'est parce que le format et où l'activité de le faire te parle moins, tu vois? Genre moi je sais que par exemple que je suis pas sur TikTok parce que TikTok ça me parle pas et que professionnellement ce serait malin pour moi de faire des TikTok, c'est une plateforme où je devrais être, mais ça me broute d'en faire le montage vidéo et tout, c'est des trucs qui m'intéressent pas et le format ne me parle pas. Donc est-ce que t'es en mode, en fait je suis un peu revenu de YouTube et tout, et moi j'aime bien les podcasts, du coup je fais des podcasts, est-ce que c'est ça qui fait que YouTube ça t'a un peu bof?
Écoute, je crois qu'il y a deux trucs. Il y a le premier truc, c'est ok, donc en gros l'endroit où je peux vraiment m'épanouir c'est les podcasts, parce que c'est vraiment ce que j'adore, comme je le racontais tout à l'heure. J'ai pas encore trouvé de moyen malin de mettre de la vidéo dans mes podcasts sans détériorer l'expérience que j'ai du podcast. C'est-à-dire, là, tu vois, par exemple, on est obligé de se tenir droit.
Oui.
Parce qu'il y a une caméra.
Oui. Bah, moi, je suis un peu mal assise, mais oui, on fait attention au fait qu'on est filmé.
Voilà. En vrai, et on regarde la caméra. Oui. En fait, c'est chiant.
Oui, en vrai, tout à l'heure, on a tourné des podcasts, on était comme ça.
Voilà, on était comme ça. On était à moitié avachis comme ça, voilà.
Et en fait,
on en avait rien à foutre.
Parce que vous n'étiez pas
vous
là.
Soyez là, voilà. Et là, pour le coup, c'est un vrai truc sur lequel avec lequel je bataille encore, entre guillemets, qui est, je préfère très largement la qualité de ce qu'on finit par sortir à la fin de l'interview que de la forme en ayant une caméra qui peut-être va permettre de pouvoir faire des extraits. Là, par exemple, j'ai sorti un extrait sur mon Insta de Juliette Katz, parce que pour le coup,
tipi-topi.
c'était une visio, donc on avait tous les deux une caméra, j'enregistre le truc et tout. En fait, je lui demande à la fin, est-ce que ça te dérange pas si je sors ce morceau? Mais ça se fait de façon naturelle. C'est-à-dire que de base, on a déjà la caméra et tout, et ça marche. Et j'ai pas mieux avec elle. C'est-à-dire
c'est pas une interview que t'aurais pu faire sans, puisqu'elle était pas là. Donc,
Exactement. Et ça a cartonné, en fait. La vidéo, elle a 150 000 vues. J'ai gagné 2000 abonnés rien qu'avec ça. Enfin, c'est débile. Et je me rends bien compte. Ça me fait chier parce que je me rends bien compte à quel point ça permettrait de pouvoir faire connaître mes podcasts aussi et de pouvoir faire connaître le travail que je fais. Donc je me bagarre un peu avec ça, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je suis pas plus sur YouTube, c'est que j'ai compris que je suis encore en train de me battre un peu avec ça, et vraiment je préfère, tu vois, tout à l'heure là j'ai interviewé une meuf qui dans Histoire de Daronne, qui me raconte une histoire très compliquée avec ses ados qui ont fait plusieurs tentatives de suicide, elle a les larmes aux yeux en permanence, enfin, c'est un truc vraiment dur, et en fait j'ai pas envie
de lui mettre une caméra sur la gueule.
Ouais, tu vois, de m'occuper de ça, ça m'intéresse pas. Je me dis, je sais pertinemment que, franchement, on l'a filmé. Enfin, moi, je l'ai vu, hein, elle était en face de moi. Si j'avais des lunettes comme
la
Snapchat,
Apple Vision
là,
Pro, là.
Voilà, c'est ça. Franchement, si je la filme en même temps, c'est ton cas, hein. Ça fait un carton énorme.
Bah,
parce que...
c'est les émissions genre Evelyne Thomas et tout, là, France 2, quoi. Venez nous raconter votre plus gros trauma face caméra, quoi.
Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai pas envie de ça déjà de base. Et surtout, en fait, j'ai envie qu'elle vienne raconter ce qu'elle a envie de raconter. Et je crois que j'arriverai à faire les deux, tu vois, si j'avais un. Mais j'arriverai à faire les deux. Mais en fait, ça nécessite de peut-être avoir un studio, d'avoir des gens derrière la caméra. Et en fait, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de garder une petite équipe. Tout à l'heure, quelqu'un disait, est-ce que c'est vachement...
Est-ce que ça te manque pas d'être patron d'une équipe?
Le collectif me manque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce podcast ensemble et qu'on a deux, trois autres idées.
Ouais.
Le collectif me manque vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment un truc qui peut me manquer parfois au quotidien, de façon forte parfois, où je sens que parfois je me sens un peu seul. Et d'ailleurs, on a monté ce truc où tous les mardis matins on se retrouve pour un peu débriefer en visio. On fait une réu pour débriefer un peu où on en est, etc. Donc on est tous indépendants, mais on on est quand même ensemble.
Il y a Fab Nodius qui est créateur de contenu indépendant, suivez-le sur Twitch et sur Patreon, et qui est journaliste, et Marie-Camille alias Marie-Kigai qui est productrice et streameuse, et moi, on se retrouve à 3 ou 4, ça dépend des dispos, pour faire un point, mais vraiment pro quoi. Enfin, on est aussi amis dans la vie, voire plus avec Nodius, et du coup on prend des nouvelles, mais on n'est pas là pour se raconter notre week-end, sauf si notre week-end a consisté à j'ai décroché un truc, j'ai eu une hésitation sur est-ce que je fais tel truc ou pas, voilà. Et là, pour parler boulot.
Voilà, mais donc ouais, le collectif me manque, en revanche le fait d'avoir une ribambelle de salariés, pas du tout. Une ribambelle de vie à gérer aussi, parce que même si chacun avait sa vie et que la vie perso c'était la vie perso, en fait il y a des moments où la vie perso elle vient impacter la vie pro dans la vie des gens, et en fait elle vient impacter la boîte.
Bien sûr.
Ça c'était toujours un truc qui
quand
était...
j'arrive et que je chiale toute la matinée parce que je me suis fait guélard, bon Mimi t'es quand même un chef adjointe, mais d'accord, c'est pas grave, on va te patte. J'ai une collègue qui m'a amené un grand moka avec plein d'eau chantilly et des patte, et après ça allait. Mais oui, c'est peut-être fatigant au quotidien.
C'était un peu fatigant.
Fois 30 personnes, c'est assez vite.
C'est ça, c'est que. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Ça veut dire que tous les jours, potentiellement, il y a un truc statistiquement.
Ah, on peut se faire guélard. On ne peut pas guélard 1000 fois une personne, mais tout ça, quoi. Du coup, cette thérapie, comment tu penses que tu as avancé, bah, notamment dans ton rapport au travail et dans peut-être ton rapport à l'ego et ton rapport à toi par le travail? Tu vois, cette idée d'accomplissement professionnel. Surtout que t'es un mec et que statistiquement les mecs on les élève plutôt à valoriser cet accomplissement par le travail et par la vie pro et par le statut professionnel. Tu étais quand même PDG.
Oui.
Tu l'es toujours finalement parce que t'es toujours PDG de toi, de ta propre boîte.
Moi j'ai Samantha.
Fab Faux Prod. Et tu as oui pardon.
Qui est en alternance avec moi, et mais effectivement gérer une Samantha au quotidien versus gérer 30 Gugus.
Dont des sacrés numéros. Bon, c'est pas pareil. Du coup, en quoi la thérapie t'a aidé à recalibrer ton rapport au travail ? Vaste
c'est,
sujet.
En fait, la thérapie m'a aidé à me recalibrer plus globalement. Je crois que j'avais entamé un travail de thérapie à 39 ans à peu près. Trois ans plus tard, mon meilleur ami meurt. Ma figure paternelle aussi, tu vois, parce que Denis avait une vraie figure paternelle, était une vraie figure paternelle pour moi.
Et un mentor professionnel aussi.
Et un mentor professionnel, bien sûr, parce qu'on bossait ensemble, on était associés aussi. Et en fait, c'est un excellent, je te disais un peu tout à l'heure, mais wake-up call du genre, ok, donc maintenant, ta vie, elle peut s'arrêter vraiment littéralement en 10 minutes, comme la sienne s'est arrêtée en 10 minutes. C'est quoi les trucs sur lesquels tu vas bien et c'est quoi les trucs sur lesquels tu vas plus bien? Et assez rapidement, avec ma femme à l'époque, on est arrivé au constat, enfin assez rapidement, on a mis un an à se dire, en fait, est-ce qu'on n'a pas vraiment envie de passer notre cinquantaine ensemble, quoi? Donc vas-y, viens, on arrête. Et pareil, avec la boîte, il y avait aussi ce truc de, ça finissait par devenir beaucoup plus de contraintes que de plaisir. Et en fait, j'avais plus envie de ça. Et en gros, ça, c'était un peu le travail de pré... J'ai l'impression que vraiment, c'était les premières couches, quoi. Avec ma psy, au tout départ, elle m'a reconnecté à mes émotions, elle m'a reconnecté à l'instant présent, beaucoup médité, enfin, beaucoup de trucs pour revenir un petit peu dans ton corps et arrêter juste d'être un cerveau ambulant. Et en fait, là, ces trois dernières années, pour moi, le travail, il s'est plutôt basé sur... j'ai beaucoup travaillé sur les peurs, j'ai beaucoup travaillé sur l'ego et les trucs sur lesquels on s'identifie, et notamment bah, l'un des trucs sur lesquels je m'identifiais, c'était j'étais le patron de Mademoiselle. Ça aussi, c'est très bizarre quand t'es plus le patron de Mademoiselle. C'est l'un des trucs que Denis me disait beaucoup d'ailleurs. L'un des trucs qu'il me disait, c'était avant de vendre, qu'est-ce que tu fais après ? Et en fait, c'était horrible comme question, et heureusement... Et je sais pourquoi j'ai vendu quand il est mort, c'est qu'il n'était plus là à me poser cette question. Et que
je me disais juste, de savoir,
je verrai, tu vois.
Ouais.
Parce que c'est j'ai des ressources.
C'est comme si tu voulais rompre avec quelqu'un et qu'on te disait, bah, mais tu vas sortir avec qui après ? C'est genre, je sais pas, frère, je verrai. Ouais. L'important, c'est que j'ai plus envie d'être là maintenant. La suite, on verra, je trouverai là où j'ai envie d'être.
Et Denis a été d'une aide précieuse pour tellement de choses dans ma vie que je ne pourrais jamais le remercier assez. Mais il appuyait aussi beaucoup sur mes boutons de la peur, parce que lui-même avait plein de peurs, mais ça, je m'en rends compte aujourd'hui, beaucoup plus que quand j'étais dans ma relation avec lui.
Et lui a peu fait des thérapies.
Et lui, il a moins fait de thérapie. oui. Et clairement, donc ouais, la peur, l'ego, sur la résolution de conflits aussi. J'ai beaucoup bossé sur l'amour, j'ai beaucoup bossé sur ma place, trouver ma place. Je suis pas sûr encore d'avoir tout à fait trouvé pour l'instant, mais trouver ma place de père aussi par rapport à mes propres filles, par rapport à mes filles, où c'était super compliqué après la séparation. Je suis allé m'installer à Paris, elle vivait encore à Lille, de trouver notre place tous ensemble. Il y a eu le Covid assez rapidement. Enfin, ouais. C'était vraiment dur. Et de trouver ma place d'homme aussi par rapport à une nouvelle relation éventuellement amoureuse. Et d'aller chercher, d'aller creuser, d'aller venir vraiment taper au fond, vraiment de façon parfois dure, très très dure, sur mes darons, ma daronne, c'est quoi pour moi un lien d'amour, qu'est-ce que j'attends d'une relation. En fait, avec ma femme à l'époque, on s'est rencontrés, on avait 17 et 15 ans, on s'est pas vraiment choisi, et on s'est choisi très régulièrement par plein d'aspects, mais en fait
pendant 25 ans,
voilà,
vous
c'est
avez
ça.
Choisi.
Mais à la base, quand on était gamin, je crois pas qu'on se soit choisi, quoi.
Bah, vous vous connaissiez pas assez vous-même peut-être pour savoir, pour choisir, quoi. Et puis ouais. Tu peux pas choisir pour 25 ans de vie quand t'as même pas 25 ans de vie.
Bah non.
Je trouve que déjà quand tu les as, c'est pas vraiment possible.
N'importe quoi. Et je regarde tout ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance et par rapport au chemin que j'ai parcouru. Mais c'est vrai que ça a été 3 années, et notamment à partir de 2021, où je me suis vraiment secoué le cocotier de « Ok, c'est quoi les trucs sur lesquels tu galères ? C'est quoi les trucs sur lesquels tu butes ?» Et je suis allé au feu, quoi. Vraiment, je crois que je peux dire assez sereinement qu'en fait, j'ai vraiment pété l'intégralité de mes a priori et de plein de conceptions de ma vie que j'avais, où je croyais que j'avais réfléchi, mais j'avais pas réfléchi sous le bon angle. Parce qu'en fait, une fois que tu vois la peur de façon un peu différente, une fois que tu vois l'ego et la façon des choses sur lesquelles tu t'identifies et ta personnalité, etc., de façon un peu différente, et que tu te dis, ok, maintenant, on repart d'une page blanche. C'est quoi le gars que j'ai envie d'être en toute liberté ?
Boulevard.
C'est
Boulevard
incroyable.
Haussmannien à naviguer, quoi. Est-ce que t'as en tête une peur, une galère que t'as réussi à surmonter dans ces 3 ans, plutôt pro a priori, ça peut être perso, j'en ai une si t'en as pas, donc
perso, pro,
non, plutôt pro, enfin on est plutôt dans un live sur ta vie pro, après ouais. Si tu veux me raconter une galère perso, ça m'intéresse,
mais en fait ça fait, c'est un peu lié, c'est que
forcément.
J'ai beaucoup travaillé sur ma blessure de rejet, je crois que j'avais une grosse blessure de rejet.
Et donc, blessure de rejet pour le contexte.
Blessure de rejet, c'est. Vous pouvez lire ce bouquin qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme, je crois, si je ne me trompe pas. Et en gros, la nana dit qu'on peut identifier 5 blessures: trahison, rejet, abandon, injustice.
C'est comme les péchés capitaux, il y en a toujours un qu'on oublie.
Injustice, j'ai dit.
Tu l'as dit.
Injustice,
bon, achetez le bouquin,
abandon.
Vous aurez le cinquième. Le cinquième va vous étonner.
De Lise Barbeau, tout à fait. Putain, mais pourquoi je l'oublie ? Trahison, injustice,
rejet,
abandon. Voilà.
Voilà, lisez le bouquin pour le cinquième.
Putain, c'est étonnant que je ne l'ai pas.
Mais en gros, ça, on pourrait apparenter ça un peu un traumatisme originel, un truc comme ça.
Ouais, c'est
ça. Qui fait que tu as une peur du rejet,
ouais.
Ou que le rejet va t'atteindre énormément, quoi. Enfin, de façon
oui.
Disproportionnée par
oui.
Rapport à...
c'est ça.
Est-ce que ça va vraiment ruiner ta vie, que
oui.
Cette personne te rejette ? Bon,
oui.
Non.
Et je crois que ça...
Humiliation.
C'est merci
on dirait
beaucoup,
les... Désolé, mais on dirait les titres des Twilight, tu sais.
Ouais,
fascination
peu.
Et tout, humiliation.
Merci, merci Luigi.
Merci Luigi.
Et c'est marrant que je crois pas l'avoir. Oh, quoi que. Ah. On en a tous au moins 2 ou 3, hein, en vrai.
Tu veux qu'on parle de septembre 2016
ouais.
Sur Twitter ou...
ah, oui. Oui. Mais ça pas mal réglé.
Oui, oui. Mais, c'est... Bon.
Mais en fait, sur le rejet, c'était compliqué. Because, je crois que j'ai toujours voulu qu'on m'aime, tu vois, inconditionnellement, et que les gens m'aiment. Et en
tu
fait.
Tu t'aimes pour qui tu es vraiment.
Voilà. Et je crois que ça a été compliqué pour moi de finir par m'entourer de gens qui m'aiment pour qui je suis. Aujourd'hui, je crois que c'est plutôt d'équerre, et plus ça va, plus c'est d'équerre. C'est-à-dire que vraiment, il y a un filtre très simple de... Si ça t'intéresse... Si... Franchement, si tu m'intéresses pas plus que ça, ça dégage, quoi, tu vois. Et si, dans l'autre sens, ça s'en va.
Oui, tu le prends pas personnellement non plus quand c'est plus. Des gens qui, avec qui toi, t'as l'impression de vibrer, mais eux, bah non.
Oui.
Ou alors ils te disent, bah, en fait, j'ai pas la place pour ça dans ma vie, ou à tu vois, t'es là en mode, ok.
Mais
tu
aujourd'hui,
prends plus
oui.
comme ma petite voix avait donc raison. Je suis nul et personne ne m'aime.
C'était horrible.
Vous connaissez
vraiment.
La petite voix.
Horrible. Et ça, tu vois, d'avoir réglé ce truc-là, et notamment ça a apaisé plein de choses dans ma vie, ça a apaisé ma relation à mes filles aussi, qui sont un peu, comme je le disais tout à l'heure, un peu en colère aussi. En tout cas, ma fille number two est un peu en colère contre moi, Kim.
Quelle fille de 15 ans n'est pas en colère contre son père,
normal.
Déjà contre ses parents.
Mais et ça a été, ouais. c'était dur de me faire rejeter par elle. Tu vois, pour le coup, quand ça a commencé, c'était vraiment hardcore. Et le fait d'avoir réglé cette blessure de rejet, et en fait, à la base, qui est quand même une peur, hein, tu vois, t'as peur du rejet. Hein. Ça m'a vraiment permis de pouvoir vivre ma vie professionnelle beaucoup plus sereinement. Je crois qu'à une période, j'avais toujours un peu en tête que les gens qui me répondaient pas aux mails, c'est parce qu'en fait, ils m'aimaient pas ou ils avaient lu un truc de merde sur moi.
C'est que c'était personnel, quoi.
Ouais, ouais. Toujours. Là, aujourd'hui, je suis là, qui même me suivent, tant pis pour ça.
Alors, quand on parle de t'as plus peur du rejet professionnel, t'es quand même indé, donc tu dépends aussi de l'argent que des annonceurs ou quoi te payent. Comment tu concilies j'ai plus peur du rejet avec si tout le monde me dit non, j'ai plus d'argent par contre.
Mais ça fait partie des peurs que j'ai beaucoup travaillé sur l'argent.
Ok. Peut-être.
Ça m'étonne pas que tu poses cette question, en revanche.
non, pour enfin c'est.
Ah mais c'était une vraie peur pour moi. Ça a été horrible, ouais, la peur oui. de manquer d'argent. Voilà. C'était vraiment hardcore. Et j'ai bossé sur mon rapport à l'argent, qui m'a amené à faire Histoire d'argent. Je vous invite vraiment à découvrir ce podcast si vous l'avez pas
encore
fait.
Trop bon
podcast.
Super,
où je viens questionner les gens sur leur propre rapport à l'argent. Mais d'un point de vue purement psychologique. Où on va creuser.
Oui, c'est pas un podcast genre conseil investissement gagner de l'argent grâce au Bitcoin. Bonjour.
Je ne sais
ça
que
veut dire
faire.
Quoi l'argent pour toi. Voilà. Et après, les gens, ils sont là. Faut que je te parle de ma mère. Et tu fais yes, let's fucking go. Et c'est cool.
Exactement. Et ça, par exemple, le fait d'avoir bossé sur ma peur de manquer, par exemple, j'ai fait un truc très intéressant, c'est que j'avais de l'argent sur le compte en banque de ma boîte. Et j'ai attendu le dernier moment ne plus avoir genre 100 balles sur mon compte. J'ai jamais eu ça dans ma vie, moi, 100 balles sur mon compte.
Sur ton compte perso, du coup.
Perso,
ouais.
Pour le coup. Moi, depuis que je travaille, j'ai de l'argent sur mon compte. Et oui. j'ai toujours travaillé toute ma vie.
Oui.
Et j'ai jamais été en déficit. Enfin, tu vois, oui. je dépensais que ce que j'avais. Enfin, vraiment, j'avais tellement peur. Voilà.
Je ne connais pas le découvert. Waouh.
Et ouais, j'ai attendu d'avoir 100 balles sur mon compte. Et je savais pertinemment que, je crois, le surlendemain, je me faisais débiter mon loyer.
Oui, et que bah, pour le coup, il n'y a rien qui va rentrer tout seul.
Boum Pour attendre, vraiment, et de vivre cette peur, de la voir en face et de me dire « Ok, comment tu te sens ? Est-ce que c'est si grave que ça ?»
Mais en même temps, tu les as sur ton... Enfin, tu sais que tu les as. Donc, c'est pas la peur de...
Mais attends.
En fait, t'es pas face à « J'ai vraiment plus que 100 euros et une dépense qui arrive. » T'es pas face à la peur de « Je n'ai pas d'argent. »
Mais je n'aurai jamais pas d'argent.
Je sais pas, il y a des gens qui ont.
On fera un épisode 2 d'histoire d'argent. Je sais, mais moi je sais que ce truc-là ne m'arrivera pas.
Ok.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ma tête, c'est sécurisé, c'est-à-dire que ce n'est qu'une pensée.
Je pense que c'est compliqué de pas déraper assez vite sur le quand on veut, on peut, ou quand on veut ne pas finir à la rue, on peut ne pas finir à la rue, ou je suis là. Oui, mais du coup.
Je parle de
les accidents de la vie existent, tu vois.
Bien sûr.
Et galères et les économies qui se crashent et les whatever, oui. Tu vois, c'est pas quelque chose que.
Mais ça, c'est un film que tu te fais dans ta tête. Ou
bah,
que tu.
Je sais pas, non, c'est la réalité, tu vois. Genre, il y a vraiment des gens qui sont à la rue, genre, c'est
mais
réel.
Ça n'est pas ma réalité.
Bah, non, mais c'était pas leur réalité à ces gens avant que ce soit leur réalité.
Ok, mais si tu veux, comme tu me parles de peur, moi, oui. je te parle de ma peur de manquer. En fait, dans ma peur
oui.
de manquer,
non, mais c'est juste
la façon...
parce que tu me disais, je me suis mis face à ce qui me faisait peur. Et je suis là, tu t'es mis face à un compte en banque avec 100 euros, tout en sachant que tu avais un compte pro sur lequel tu allais prendre de l'argent pour le mettre sur
mais
ton compte perso.
Avant, ça me faisait déboîter.
Oui.
Je débloquais total.
Bah, en fait, la preuve, c'est que tu as vécu sans découvert. Ce qui... Enfin, sans être à découvert.
Jamais.
Ce qui est,
Et en fait, moi, ça n'existe pas dans ma vie. Et en fait, le fait que j'ai de l'argent sur mon compte en banque, peu importe, parce qu'en fait chez Mademoiselle à l'époque, j'avais de l'argent sur le compte en banque de Mademoiselle.
Oui.
Je pouvais me payer très grassement chez Mademoiselle, j'ai jamais fait, mais j'aurais pu me payer beaucoup plus grassement. Voilà.
Tu n'eus pas.
Et en attendant, cette peur-là, je l'avais en permanence.
Ouais. Ok, ok.
Elle était là. Elle était là. Et en fait, quand je me suis retrouvé célibataire au début de Mademoiselle, enfin à la fin de Mademoiselle pour le coup, début 2020, j'avais ça qui était énorme. Mmh. C'était énorme en moi. Parce que là, j'étais all by myself, fallait que je me débrouille
tout
seul.
Coup, c'est le flip de l'indépendance.
Voilà.
Quoi.
Et la boîte, il y avait une folle sur le compte en banque de la boîte.
Bien
sûr. À l'échelle de mon.
Bah, à l'échelle d'une personne humaine qui ouvre ce compte, t'es là, waouh, ça fait beaucoup d'argent.
Voilà. À l'échelle de la boîte.
Faut payer 30 personnes et les loyers et tout. Donc,
mais, mais j'avais largement de quoi pouvoir me payer en plus. Et ça, c'était horrible. Vraiment, c'était vraiment très très dur.
Et rappelons que t'as encore quand même deux filles mineures, etc. Enfin, t'as aussi une responsabilité financière qui peut, dans ta tête en tout cas, aller au-delà de ton propre loyer à payer personnel. Quoi. Bah, justement, puisqu'on parle d'argent, quand je t'ai demandé est-ce que t'as une galère ou une peur que t'as traversé dans ces trois ans, moi je pensais au lancement de ton Patreon qui alors n'est pas ton revenu principal mais qui a été justement peut-être d'autant plus démesuré en termes de ça t'a fait peur par rapport à maintenant que c'est là, bah, la place que ça prend dans ta vie, j'ai l'impression que c'est très chill quoi.
Oui.
Et que c'est pas quelque chose sur lequel tu angoisses ou tu obsesses beaucoup alors que ça t'avait beaucoup stressé avant.
Le truc sur lequel je suis encore en train de travailler, c'est de demander de l'argent.
Yes, c'est donner de l'argent à Fabrice, abonnez-vous à son Patreon.
Je crois que ma commande, elle marche plus.
Acte manqué.
Non, mais.
Qu'en dirait ta psy ?
Je crois pas. Ah, si !
Si, mais putain, voilà, mais formidable. Wiseboat n'oublie jamais.
Merci. Donc, ouais, tu vois, l'un des trucs sur lesquels je bosse encore, c'est de ne plus avoir peur de demander de l'argent aux gens. Et en fait.
Oui, c'était ça qui te faisait peur avec Patreon, c'est aller demander aux gens leur argent, quoi.
Ouais. Et
genre, payez-moi.
Et en fait, de partir du principe que je n'avais pas besoin de cet argent, etc. Ce qui est dans l'absolu aujourd'hui vrai, mais en fait je reçois des messages de gens. Alors j'ai une anecdote avec un mec qui s'appelle Rudy que j'ai interviewé dans Histoire d'argent qui m'a envoyé un message adorable pour me dire écoute ton podcast Histoire d'argent c'est génial, c'est mieux qu'une thérapie pour ma pomme et tout, c'est complètement dingue, ça m'a ouvert les chakras de ouf et tout. Et en fait il m'envoie le vocal qu'il a envoyé à un de ses potes pour recommander le podcast Histoire d'argent.
Ah, n'hésitez pas chez vous, recommandez Histoire d'argent, Histoire de succès, etc.
C'est
à
très
tous
marrant.
Vos amis.
Et en fait, je reçois ça et sur le moment, ça me remplit de joie. Tu vois, je suis là, putain, c'est trop cool. Et ça vient gratter sur, ok mec, tu dis que ce truc-là, ça te vaut une thérapie et que c'est complètement dingue, mais...
Combien ça coûte une thérapie ?
Voilà. Pourquoi tu m'envoies pas de sous ? Et j'étais à Biarritz en train de réfléchir justement à un peu ma vie, mon œuvre, parce que ça, je fais ça une fois par an, où je vais à Biarritz face à la mer, l'océan, et je fais rien d'autre que juste de laisser l'océan venir me donner des réponses. Vraiment, il y a un peu ça. C'est très intéressant à vivre comme expérience. Et je lui ai demandé. Je lui ai dit, écoute, merci beaucoup. En fait, et si ton podcast... Si mon podcast te plaît, en fait, n'hésite pas à me donner des sous parce que c'est une façon comme une autre de me rémunérer et de me dire merci. Et le mec m'a envoyé 200 balles. 200
ça
putain
peut
de
vous
balles.
Arriver.
Et quand j'ai reçu ça, j'ai pleuré. Et en fait, j'ai pleuré tout en me disant c'est quand même complètement dingue. Le mec me donne 200 balles. Et en fait, j'étais tellement convaincu de pas les mériter que ça m'a foutu en l'air, ça m'a ému au possible, et en même temps il y avait un côté mais tu te rends compte Fab, c'est génial, il y avait de la joie là-dedans, il y avait aussi un peu de dépréciation personnelle de mais pourquoi tu pleures alors qu'il te donne 200 balles alors que certes c'est beaucoup d'argent, c'est plein d'argent pour plein de gens et vraiment je le remercie, j'espère qu'il avait les sous. Rudy, j'ai interviewé dans Histoire d'argent, après il avait beaucoup d'argent.
Le mec qui commence le podcast en disant maintenant que je t'ai donné mes 200 derniers euros, tu fais oula, oula je suis désolé.
Et il m'a dit, donc je raconte ça au début du podcast, et je lui dis merci et tout, et il me dit mais tu sais que je voulais t'envoyer 500. J'aurais fondu, j'aurais explosé. Et tu vois, ce genre de petit move, ça m'a tellement... Il y avait aussi une forme de gratitude envers moi, tu vois, de pas être resté juste avec le seum de... pour me donner un peu
de... En fait, t'as demandé, quoi. T'as demandé ce que tu voulais, voilà. Et c'est arrivé. Et... Écoute.
C'était incroyable.
Et si c'était pas arrivé, si t'avais dit bah là je peux pas, ou bah pour moi le podcast il est dispo, enfin il y a des pubs, tu vois, ça te paye et tout, est-ce que tu penses que ça t'aurait vraiment fait beaucoup de peine ou beaucoup de mal, ou est-ce que t'aurais été ok avec bah j'ai tenté, ça a pas marché ce coup-ci, quoi?
Non, ça m'aurait. En fait, pour le coup, j'avais pas de problème avec le rejet.
Ok, donc t'avais pas tant à perdre à demander.
Non, j'avais
et
rien
bah,
à perdre.
Au final, t'avais à gagner 200 euros et t'aurais pu même avoir à gagner à la clé 500 euros. Donc,
ouais, c'est vraiment
parfois,
cool.
Il suffit de demander. Est-ce que t'es content de ta situation financière? Est-ce que t'estimes que tu gagnes assez ta vie? Est-ce que t'es content de là où t'en es là?
Écoute, donc, c'est un délire, hein, parce que, en gros, là, ça fait. À peu près 2 ans et demi, 3 ans que je paye mes factures grâce à l'argent de Mademoiselle. Donc j'ai placé une grosse partie et j'en ai gardé une autre. Et l'un de mes objectifs cette année, c'est de me payer correctement ce que je veux me payer. Et en gros, vu toutes mes dépenses, etc., etc., et mon loyer, mes pensions, ma pension alimentaire, les crédits, machin, je voudrais gagner 5000 euros par mois. Okay. Et je suis en passe de réussir à le faire. Alors, je dis ça parce que c'est toujours un peu complexe dans ma situation, parce que je me paye en dividendes, donc à la fin de l'année, une grosse partie. Et en gros, pendant le reste de l'année, je paye avec l'argent de l'année d'avant. Donc là, je pars du principe que mon argent de l'année d'avant, je l'ai dépensé, et que là je suis en train de gagner l'argent de l'année d'après. Voilà.
Et d'une année sur l'autre, ça peut fluctuer parce que y a une partie qui vient d'annonceurs, ouais, ou de clients, que bah, on l'a vu avec le Covid, il y a parfois, ouais, des événements indépendants de notre volonté ou de la qualité de notre travail, ouais, qui font que les économies finalement. Donc c'est un peu, enfin l'objectif c'est 5000 euros par mois. C'est plus compliqué de calculer combien il me faut pour avoir 5000 euros par mois glissant, parce que bah, ça dépend
c'est
des années, de comment,
ouais,
tu payes et tout. Ouais. On arrive au point comptabilité où je suis là, je paye quelqu'un pour ça.
Ouais, oui.
Et encore, moi j'ai juste une auto-entreprise, tu vois. Je suis pas en mode dividende and shit, je suis en mode bonjour l'URSSAF, j'ai gagné tant. Ouais. L'URSSAF me dit donne-moi tant, je lui dis très bien, le reste c'est pour moi. Très bien. Super.
Mais tu vois, avec enfin, 5000 balles par mois, je c'est à peu près ce que je dépense. Donc je mets pas de côté, mais bon,
okay,
on bat les couilles. Je suis là, en fait, je suis juste en train de faire le métier que je rêve de faire. J'ai un peu d'argent de côté de Mademoiselle qui me reste.
Oui, voilà. Et t'as un peu d'épargne, t'as pas forcément envie de la doubler, non, ni rien. Donc
on a acheté un appart avec mon ex-femme que je continue à payer tous les mois, qui finira par être payé dans 7 ou 8 ans, tu vois. Donc ça c'est cool, quoi.
Ouais, ok, chouette. Il y a Sarah Muche qui dit « Je crois aussi qu'éduquer les auditeurs à payer les podcasteries, c'est cool. Je vous patriote tous les deux pour l'équivalent de 2 cafés par mois. Merci beaucoup. » Et ça me semble juste normal. Et on
merci
a...
Merci Sarah.
Très bonne question de Jenny qui me permet une incroyable transition vers la dernière
c'est
partie
adorable,
de
Sarah.
Cette discussion. Oui, merci beaucoup Sarah. Qui nous dit « T'as déjà envisagé de faire du coaching ?» Alors déjà, on l'a évoqué un petit peu, mais parlons-en de cette formation. C'est quoi cette formation? Comment t'en es venue à la proposer? Comment tu l'as pricée? C'est intéressant. Comment t'as décidé combien elle coûte? Et où est-ce que les gens peuvent la retrouver, bien sûr?
En fait, c'est une idée que j'avais en tête depuis un petit moment. Et c'est Charlie, qui est créateur de contenu, Charlie _ EVT sur Instagram, qui m'a poussé à le faire et qui m'a dit « Mais moi, je serais le premier à l'acheter. » Parce qu'en fait, je lui ai expliqué que j'avais en tête de faire cette formation où j'allais mettre 15 ans d'expérience de ce que j'ai appris dans une formation qui dure 2h30, 3h. Je vous le file. Et en fait, c'est vraiment ce que j'aurais aimé avoir comme formation au tout début, quand je me suis lancé et que j'étais avec ma bite et mon couteau et tout seul, quoi.
Donc, c'est une formation à l'interview. Comment bien interviewer,
oui,
quelqu'un plutôt, bah, a priori pour du format podcast, mais en vrai, c'est des outils pratiques. Enfin, il y a 2-3 trucs un peu spécifiques au podcast, notamment, ouais, l'aspect est-ce qu'on filme ou pas, tu vois, dont, ouais, parler, tu le développes dedans. Mais ça marche pour tout ce qui peut être amené dans votre métier à interviewer des gens, à leur poser les bonnes questions, que ça soit, bah, pour un média, ouais, voilà, vous faites une interview, mais aussi, tu vois, je pense à toutes les boîtes qui invitent des experts, des tables rondes et tout, et où en fait, la personne qui pose les questions, c'est elle qui va faire si c'est un bon moment ou pas.
Ouais.
Parce que sinon, enfin, tu peux passer un moment rasoir, tout le monde les a vécus en cours ou au travail, tu vois, les trucs où t'es là. Je suis en train de me faire violence pour garder les paupières ouvertes, je ne comprends pas ce degré d'ennui. Une autre personne, même invitée, une autre personne qui pose les bonnes questions, qui a le bon rythme.
Bah oui.
autre moment et autre réponse aussi, autre chose. Donc voilà, c'est une formation pour interviewer et faire parler les gens.
Interviewer, écouter. Ouais. Et donc ouais, j'ai lancé ça en février dernier, je crois, si je me souviens bien. Et effectivement, sous l'impulsion de Charlie qui m'a dit « Mais moi, je serai le premier à acheter parce que tu viens mettre 15 ans d'expérience en 2h30, mais moi, je l'achète, quoi. » C'est-à-dire que toi, tu as juste galéré pendant 15 ans à faire de l'essai-erreur et tu viens me le filer. Et en fait, tu vois, je me suis dit « Ok, j'ai envie de, que ça reste un truc abordable. Ça, c'est 3 heures de contenu. Je vais le vendre à 300€. » Et je trouvais ça honnête.
C'est ok, je trouve.
Je crois que, en fait, le truc que je fais, c'est que je propose, pour l'instant, j'en ai pas, personne m'en a proposé, mais je propose après du coaching individuel. Si jamais vous voulez qu'on puisse échanger sur votre podcast en particulier, c'est 500 balles de l'heure. En fait, c'est 500 balles les deux heures. Je vais vous m'envoyer un épisode pendant une heure que je vais écouter, que je vais annoter, etc. Enfin, que je vais faire en sorte de... Et en fait, pendant une heure, on débriefe.
Ouais, tu fais du consulting podcast, quoi.
Du consulting,
mais
tout à
pense,
fait.
Je te dis ça parce que je t'aime, que tu n'as pas bien marketé ça. Parce que moi-même, je ne sais pas vraiment que tu proposes ça et on se parle souvent. Et que peut-être tu l'as marketé dans le cadre de cette formation à l'interview. Mais du coup, les gens qui n'étaient pas dans la formation, quoi. Enfin,
oui, c'est à la fin.
Tu vois, alors c'est que pour moi, tu devrais vendre ça à part.
Ah, ouais.
Alors peut-être pas 500 balles, du coup. Mais.
Il faut que ce soit cher parce que.
Bah, en fait, 500 balles, du coup.
Pour le coup, il faut que ce soit cher parce que je n'ai pas envie de faire ça toute ma journée. Ça ne m'intéresse pas.
Ok, bah, 500 balles, voilà. Du coup, de dire, vous m'envoyez. Enfin, voilà, je vous fais du consulting, ouais. Podcast de la part de. Un mec qui gagne un peu sa vie avec les podcasts et qui s'en sort bien.
Ouais. Ça, je...
Petite reco, bienvenue dans nos discussions du mardi. Ça ressemble à ça.
Est-ce que c'est toi, Fab, qui a mentoré Mimi sur les interviews chez Mad?
What do you think? Évidemment, c'est Fabrizio qui m'a, je pense, tout appris en interview. Hein. J'ai appris de beaucoup de gens différents chez Mad, beaucoup de skills. Mais sur les interviews, je pense que oui, c'est vraiment, c'est vraiment toi, quoi. Beaucoup.
J'ai donc beaucoup, j'ai coaché, j'ai formé beaucoup, beaucoup de gens à faire des interviews chez Mademoiselle. Si bien que c'est un des trucs qui fait que j'ai lancé Histoire du succès, c'est que c'était vraiment mon, à la fin, c'était mon seul kiff, les interviews. Et comme j'avais formé tout le monde à l'interview, tout le monde dans la boîte faisait des interviews, sauf moi.
Oui.
Parce que j'étais le dernier au courant.
Ah, bah Fab, moi j'y vais, je vais interviewer James McAvoy. Et toi, t'étais là, cool. Je vais répondre au mail du mec qui doit réparer les chiottes. C'est moins bien. Moi j'étais là, c'est trop bien parce qu'à la fin du mois je suis payée et toi t'étais là, cool, moi c'est pour ça que j'ai mal au dos en fait.
C'est tellement ça. Salut Scalap, merci beaucoup.
Salut Scalap,
ça fait plaisir de te voir là. Est-ce qu'il y a les aspects techniques dans le...
Est-ce que dans ta formation podcast, il y a l'aspect technique matériel,
il y a l'aspect, en fait le seul truc que je donne sur l'aspect technique, c'est ce que j'utilise comme matériel moi pour mes interviews.
Mais après... Et en vrai, t'es pas un ingé son, tu vois.
Non, ça
t'es pas un bandeur du son en mode voici comment faire une ambiance sonore en binaural.
J'ai pas envie de faire une. En fait, je pourrais faire une formation en podcast. Comment lancer votre podcast? Comment je mettre sur le podcast mes couilles? Ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire juste ce qui m'intéresse.
Oui.
Voilà.
Le type de podcast qui t'intéresse.
Tout
pour l'anecdote, on avait eu, après le rachat de Mademoiselle, on avait eu une formation par un mec d'Arte Radio, je crois, sur un logiciel de montage très, très pointu pour le montage podcast. Chez Arte Radio, il passe un jour entier de montage pour une minute de podcast.
MDR!
Pas un ratio tenable pour le nombre de podcasts que tu fais. Et c'est pas du tout la même ambition, en fait. Il n'y a pas besoin pour les podcasts que tu fais ou que je fais d'avoir une telle qualité sonore. C'est du pinaillage au bout d'un moment, quoi. Faut avoir Mathis en invité expert son. Bien sûr, Mathis, on l'embrasse. J'ai deux, trois questions sur le futur pour clôturer tranquillement cette discussion, car je sais que tu te lèves tôt demain. Est-ce que tu penses remonter une boîte un jour? Est-ce que tu penses remonter un média un jour? Deux questions un peu différentes.
Ouais, déjà, une boîte, j'en ai déjà une.
Ouais, je veux dire dans l'idée d'embaucher des gens, tu vois. De porter un projet...
Plus grand que moi. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça, Mademoiselle, c'était un projet plus grand que moi.
Mais tu sais, je sais pas, si demain tu produis, par exemple, disons demain je viens te voir et je te dis tiens, j'aimerais bien que tu produises un de mes podcasts. Est-ce que du coup ça devient un projet plus grand que toi au moment où tu produis quelqu'un d'autre que toi? Est-ce que là c'est le début de ah, la boule de neige?
Bah.
Ou disons Nodus qui a pas de podcast encore.
En fait, s'il y a pas une entité derrière et un truc pour moi qui. Pour moi, c'est. En fait, s'il n'y a pas une. Ouais, voilà. S'il n'y a pas une entité derrière et une marque qui dépasse, va plus haut, non.
Ok.
Donc il faut qu'il y ait ça.
Donc la boîte c'est Fabflow Prod et a priori ça va rester Fabflow.
Ouais, mais tu vois, si demain je lance un média ou si demain je lance une, en fait demain je pourrais très bien, tu vois, j'ai réfléchi à est-ce que je lance une boîte de prod d'interview.
Ouais.
Ou en fait je crée une marque.
Ouais.
C'est Interview Magazine, j'en sais rien, n'importe quoi. Interview Magazine, le super magazine des interviews. Mais c'est pas un projet qui me, où tu vois, je pourrais venir dire à tous les gens qui ont des podcasts d'interview, venez.
On fait un gang.
On fait un gang, mais surtout, je vais vous produire vos podcasts. Je prends de la thune sur les trucs. Je vais vous chercher de l'argent aussi, peut-être, à côté. C'est pas un truc qui m'intéresse aujourd'hui.
Flow Brut nous propose Phil Goodman.
Voilà. Merci pour, effectivement. Mais c'est pas un truc qui me fabrique. C'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. C'est pas. Je suis bien, tu vois. Là, par exemple, effectivement, cet après-midi, j'ai fait deux interviews. Mais il y a des moments où il y a des jours où je fais une interview le matin et après, je suis en slip dans mon canapé et je kiffe ce truc.
C'est trop bien. Jeudi, j'ai fait Barbenheimer, Oppenheimer et Barbie. Genre random jeudi après-midi comme ça. J'étais là. J'ai pas besoin de travailler.
Mais pour l'instant, ça tient comme ça. Et en fait, pour moi, ça fait partie d'aujourd'hui de la vie que je considère comme de ma vie que je considère comme riche. Tu vois, de pouvoir me faire ça. Tu vois, je te dis, si je me paye 5000 balles par mois, bah je mets pas de sous de côté. Je pourrais très bien me dire, ok, je vais faire deux fois plus. Je sais que je pourrais le faire. Parfois, j'ai ma petite voix qui dit. Tu voudrais pas faire deux fois plus ?
Je pourrais faire deux fois plus.
Dis donc, hein, tu te souviens ? Tu sais faire deux fois plus. T'as aucun problème pour faire deux fois plus.
T'avais autant d'heures dans ta journée et tu faisais tellement plus.
Ouais.
Mais pourquoi faire ? À quoi bon ?
Ouais.
Et il y a un autre, ça je sais que ça fait partie de tes réflexions aussi, il y a, ok, tu gagnes 5000 balles par mois, t'épargnes pas, soit tu gagnes plus, soit tu dépenses moins, donc ça peut être réduire les frais de loyer, de machin, tu vois, ouais. ça peut être des choses auxquelles on... qui peuvent permettre d'épargner un peu.
En vrai, je suis un peu tight. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que mon appart, tu vois, il coûte très cher. Il coûte 2000 balles par mois pour moi tout seul.
Rappelons que c'est un appart fait pour accueillir tes filles aussi. Voilà. Donc, c'est pas un goût de luxe de j'ai un appart à 2000 balles pour le plaisir d'avoir de la place. C'est qu'à la base, c'est aussi un appart pour recevoir deux
filles.
Personnes supplémentaires.
Et c'est un appart où il y a de la place, beaucoup de place dans Paris et la place vaut cher. Et en fait, c'est aussi un endroit, je sais, où je reçois les gens
pour mes interviews.
Donc, c'est très important pour moi que... ils s'y sentent bien et que je m'y sente bien.
Et qu'ils soient pas à l'autre bout de la banlieue, oui. Où du coup c'est tout de suite plus compliqué. Oui. Ouais. Voilà, des réflexions.
Ça fait partie.
En cours.
Et concernant le média, non, je crois pas.
Est-ce que tu penses un jour réembaucher des gens ?
Bah, tu vois, aujourd'hui j'ai Samantha et en fait c'est bien.
Ouais, et... mais une alternance. Est-ce que tu penses un jour réembaucher des gens en CDI, tu vois ? Avec pas de date de péremption. Pour moi, alternance, stage, CDD, il y a un côté, c'est pas de la freelancerie, mais il y a un côté mission,
ouais.
Où il y a une deadline, ouais. Et un moment où naturellement on peut se dire au revoir, tu vois.
Pas aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être, si ça se fait, en fait, le jour où ça se fera de façon naturelle.
Ouais.
Et il y aura aussi, un autre truc, c'est qu'il y aura aussi le modèle économique qui découle, quoi.
Bien sûr.
Que là, aujourd'hui, sur l'alternance, il y a très peu de charges sociales, il y a des aides.
Cotisations sociales.
Voilà, de cotisations. Ouais.
Oui. C'est le terme technique, c'est cotisation sociale, c'est pas charge patronale, qui est une façon de dire.
J'ai dit charge sociale.
Oui. Mais c'est cotisation sociale.
Wow,
c'est pas
des
charges.
La meuf, ça y est, elle est hyper.
On a déjà eu cette conversation mille fois quand j'étais chez Mademoiselle avec toi, frère. Hein. C'est Clémence Bodoc qui m'a appris ça. Donc.
Quelle vie.
Tard à l'époque.
Mais non, aujourd'hui ça me va. Et en fait, ouais, il y a des aides de l'État aujourd'hui pour les alternants et tout. Donc,
ils ont vachement facilité ça. Ce qui est pour moi qui connais plutôt des gens qui cherchent des alternances, qui doivent faire une alternance pour leurs études et qui n'en trouvent pas, ça a aidé ouais. Pas mal quoi.
Un mag masculin nous demande.
Naïm Adel demande quid de créer un mag masculin, Fabrice Florent ? Est-ce que tu l'aurais pas déjà fait en 2010 avant que ce soit cool ?
Oui, effectivement.
Ça c'est souvenir vintage, Gentle Mec, petite étoile passée très vite dans le cosmos. Fabrice avait créé un genre de mademoiselle au masculin,
ouais.
en 2010-2011 je crois.
2010.
Qui du coup a vécu et fermé juste avant que moi j'arrive, mais que sache que je lisais assidûment, car j'étais déjà dans des Zumba masculinité visiblement avant de tomber dedans chez Mademoiselle. J'ai une question futur proche et une question futur lointain,
ouais.
Mais ok, on a une bonne question peut-être de Fitz Goodman. C'est un peu des nœuds au cerveau, mais est-ce que tu considères que tu n'as pas d'autres passions, ou plutôt que ton métier actuel couvre toutes tes passions? Car souvent, on essaye de gagner plus que ce qu'on dépense pour financer ce qui nous fait vibrer en dehors du boulot. C'est vrai, tu pourrais dire, je vais pas gagner plus que 5000 pour épargner, je vais gagner plus que 5000 pour aller faire des voyages, pour ma passion du modélisme, pour tout ça. Est-ce que bah, t'as des loisirs quand même Oui. Peu.
En fait, pour moi, les loisirs... Souvent, j'arrive à faire de mes loisirs des contenus, donc en fait, c'est très imbriqué. Et pour moi, l'un des trucs sur lequel j'ai dépensé beaucoup d'argent ces dernières années, c'est la thérapie, et de façon très aveugle. C'est-à-dire que je ne compte pas. Et c'est trop bien. C'est vraiment le. Pour moi, ça fait partie du meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même. Et pour le coup. C'est aussi une forme de passe-temps. Hein.
J'allais dire, c'est un peu une passion pour toi, je pense.
Ça prend du temps. Hein.
Un loisir, quoi. C'est à la fois, ça t'apporte... Enfin, bien sûr, c'est un truc... Non, mais tu vois, c'est comme le sport.
Ouais.
C'est à la fois bon pour ton corps, mais c'est aussi une passion. Genre, tu kiffes vraiment faire... Enfin, il y a des gens, pas moi, mais il y a des gens, ils kiffent vraiment, tu vois, faire du sport, et le sport, et l'univers du sport. Et en fait, la thérapie en général et le développement perso, c'est des sujets qui t'intéressent. Donc toi, tu vas aller faire des stages et tout, mais aussi, je sais que bah, sur Netflix, tu vas regarder des documentaires sur le dev perso.
Ouais, un peu.
Tu vas écouter des podcasts des fois sur le dev perso. Enfin, voilà, c'est un sujet qui t'intéresse.
C'est un sujet qui m'intéresse. Et ça fait de moi aussi... Et là, on revient au boulot, mais ça fait de moi un meilleur intervieweur. Toute la thérapie que j'ai faite, je me sens vraiment bien meilleur que ce que je pouvais être il y a 3 ans.
Comme tu le dis, c'est interviewer, c'est beaucoup écouter.
Oui.
Salut Chino. Ok, j'ai une question futur lointain et une question futur proche. La question futur lointain d'abord, quid de la retraite ? On a beaucoup parlé en France ces derniers temps, n'est-ce pas ? Mais est-ce que toi, c'est parce que donc cette année, tu as 45 ans, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
En novembre. Est-ce que toi, c'est quelque chose dans le... En fait, est-ce que tu te projettes dans... Il y a un moment où je vais vouloir ne plus travailler, en tout cas ne plus produire des choses pour gagner d'argent et profiter d'une vie où ce n'est pas une préoccupation ? Ou est-ce que tu es en mode, je suis OK avec le fait de toute ma vie produire des choses dans le but de gagner de l'argent ? Voilà, comment tu le projettes la retraite ?
Pour moi, c'est un. En fait, tant que j'ai ma tête et que j'ai toute ma tête, il n'y a aucune raison d'arrêter de travailler.
Ok.
Parce que je kiffe.
Ok.
Donc. Et au contraire, je vois bien. Je m'imagine très bien en vieillissant devenir un intervieweur de plus en plus fin.
Trop hâte d'avoir les podcasts holographiques de Fabflo 90 ans en direct dans mon cerveau envoyé par Elon Musk. Hein. Ça va être trop bien. Comme ça, je serai obligé de les écouter.
Parce que Mimi n'écoute pas mes podcasts.
Pas tous, seulement ceux où je suis dedans.
Voilà.
Voilà, j'en parle à ma psy. Ok, donc ça, c'était la question futur lointain. Question futur proche. Est-ce que t'as pas des petits projets à teaser, des choses... petit live, t'es de retour sur Twitch, est-ce qu'il se passe des choses ? Bientôt dans le Fabloverse.
Ouais, dans le Fabloverse. Déjà, retour sur Twitch, j'espère. Et en fait, l'un des trucs que je voudrais faire sur Twitch, pour vous donner un peu ma ligne édito, c'est que. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Mais je vais relancer des radios libres.
Ouais, il y a Luigi qui dit radio libre.
Ce que je faisais, en 2021, je crois, et que j'avais adoré faire.
Oup, oup.
Et qui est un vrai truc. En revanche, le truc que je veux faire désormais, c'est de trouver. Des thèmes, et peut-être je vais faire appel à l'intelligence collective. Je voudrais trouver des thèmes qui vont dans mes podcasts.
Okay.
C'est-à-dire qu'en fait, je voudrais vraiment faire en sorte de trouver un moyen de monétiser mes contenus Twitch par les podcasts, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est là-dessus surtout que je gagne de l'argent grâce aux podcasts. Plutôt que sur Twitch où je sais que ça va toujours être un peu compliqué de faire des viewers et de faire du monde et de faire des vues parce que j'ai un peu galéré.
Moi, à la fin, Twitch te prend 70% aussi des subs.
Voilà.
Donc, bon.
Et donc, ouais, de trouver plutôt des thèmes qui aillent dans les thèmes de mes podcasts. Donc, et ça, c'est un vrai truc que j'ai en tête et que je veux faire dès la rentrée. Donc, je vous tiendrai au courant. Et l'autre truc que je vais lancer, c'est que je suis en train de me former à l'accompagnement dans le rapport à l'argent. Donc, je suis en train d'une formation qui va me durer 1 an. Et donc, je vais commencer à mettre des moments d'accompagnement dans Histoire d'argent et de proposer à tous mes invités qui viennent se faire interviewer d'avoir une petite séquence où on travaille plus sur ok, c'est quoi le sujet sur lequel tu as envie d'aller. C'est un truc que j'ai fait de plus en plus avec mes invités là ces derniers mois, et où je sentais que, contrairement à mes autres podcasts, dans l'histoire de Daron, j'adore écouter, j'adore interviewer les gens et tout, mais je me sens pas du tout ni l'envie ni la légitimité de venir coacher entre guillemets les darons et les daronnes qui viennent à mon micro. En revanche, sur l'argent, il y a vraiment des trucs sur lesquels j'ai parfois des invités qui sont en souffrance, qui sont en galère, etc. Et c'est un vrai truc que j'ai envie de développer. Je sais pas trop comment ça va se...
J'ai l'impression que ta liste de candidats, elle va s'allonger si tu leur promets un quart d'heure de coaching personnalisé à la fin.
Ouais, et je sais pas
c'est
encore...
C'est pas plus mal, hein.
Je sais pas encore ce que je vais faire... businessment parlant de cette formation, mais en tout cas par rapport au podcast, je voudrais vraiment faire ça et je commence à le faire. Donc c'est trop intéressant parce que je suis moi-même en train de me former, donc c'est très perfectible ce que je suis en train de faire. Mais de la même façon que quand j'ai commencé à interviewer dans Histoire d'argent, je réécoute mes premières interviews avec beaucoup de patte pour moi par rapport à l'intervieweur que j'étais, où j'avais moi-même plein de projections, et je sais que l'intervieweur que je serai dans un an sera bien meilleur que celui que je suis aujourd'hui. Donc c'est passionnant, et en fait je voudrais vraiment commencer à développer un peu plus ce podcast Histoire d'argent qui me fait vibrer et qui m'appelle, parce que j'ai découvert là depuis un an et demi, deux ans que je fais ce podcast, que ça recouvre tellement beaucoup plus de choses que juste l'argent, et c'est toujours des interviews passionnantes, quoi. Donc voilà.
Voilà. Quelqu'un dans le chat demandait au début du live, est-ce que tu penses au coaching, etc. Oui, tu vas te former. Et puis abonnez-vous à Fabrice Partout pour avoir des...
Je vais pas appeler ça coaching parce qu'il y a un vrai aspect...
Mais tu dis accompagnement.
Ouais, accompagnement, pour moi, c'est vraiment un côté, viens, en fait, je te prends par la main et on y va ensemble, plutôt que je vais te coacher, en fait, parce que c'est pas aussi... Enfin, il y a plein de trucs derrière le coaching professionnel, etc. Là où, pour moi, je vais essayer, en tout cas, d'y aller de façon un peu plus piano. Voilà.
Oui, bah, c'est un peu un truc de parrainage, tu vois, aussi, je trouve. Là, je marraine une streameuse dans le cadre d'un accélérateur de créatrices où on se fait juste des points de temps en temps. On s'est mis un objectif de, ouais. OK, bah, l'idée, c'est que tu lances tel format et on se met des petits objectifs tranquilles, on se fait des points de temps en temps, mais c'est pas... Je dis pas que je suis coach, tu vois. C'est pas à ce niveau-là d'implication.
Ouais.
Après, il y a Laure, du coup, qui dit « Oui, tu arrives
Incroyable.
Vraiment à coacher. Perso, j'ai réussi à passer le cap de recruter ma première alternante grâce à ton interview. Bravo, Fab Flo. J'aurais pas passé le cap, sinon pas tout de suite, en tout cas. »
J'ai vu ton message, Laure, sur Insta. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et si tu veux, j'étais vraiment à deux doigts de sortir une feuille. Si notre interview elle avait duré un quart d'heure, franchement, je te faisais ton business plan.
Arrête, elle va avoir trop le seum.
Bah non, mais c'est même pas ça. C'est juste que je me suis rendu compte que j'étais plus du tout... C'est pas ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est plutôt... Je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais plus du tout dans ma place d'intervieweur.
Oui, t'étais en mode, vas-y.
J'étais un peu en train de secouer l'or, tu vois. Non, mais en fait, rends-toi compte de ce que... Des trucs sur lesquels tu butes, quoi, tu vois.
T'étais impliqué, quoi.
Un peu, ouais.
Bah écoute, moi je t'ai connu en tant que manager et mentor et je n'ai pas eu à me plaindre, clairement. Donc ça m'étonne pas que tu arrives bien à accompagner et à coacher, avec des guillemets, les gens, puisque je t'ai vu faire, c'était pas mal. Est-ce qu'on a fait le tour? Ok. On va
Merci
peut-être pas
lui.
Donner directement rendez-vous aux gens pour un nouveau live, c'est peut-être audacieux, non? T'as pas de date en tête, hein?
Non, en revanche, sachez que j'ai vu quelqu'un disait qu'il venait d'arriver. En fait, vous retrouverez ce replay-là dans Histoire de succès, je crois que je vais le mettre en audio.
Ouais,
donc voilà, si jamais vous voulez réécouter.
Et puis en VOD sur ta chaîne, a priori.
Puis en VOD sur ma chaîne.
Pas de raison qu'il disparaisse.
Oui.
Merci Fab.
Bah merci Mimi, c'était trop bien, franchement.
Bah écoute, plaisir. Hein.
Quelle joie. Time. Merci à tous dans le chat. Merci Neymadel. Neymadel.
Oui.
Ça m'a fait vachement plaisir. C'était chouette.
Et écoute, c'est pas impossible qu'on ait bientôt une discussion similaire dans l'autre sens, puisque je vais fêter les 1 an de ma chaîne Twitch en août. Et enfin, la vraie date, c'est le 31 juillet, mais je pars en vacances après. Bah, ce sera aussi 1 an et demi quasiment d'indépendance. Donc, on avait fait un live ensemble 6 mois d'indépendance et 6 mois après Mademoiselle pour moi. Ce sera peut-être l'occasion d'avoir des discussions comme ça, mais dans l'autre sens. Écoute, toujours plaisir.
Complètement dingo.
Merci le chat d'avoir été là.
Merci le chat.
Des bisous.
À bientôt.
À bientôt.
Merci à vous, c'était trop chouette.
Si vous voulez retrouver Fabrice sur tous ses podcasts, bien sûr. Tout et sur Patreon.
Oui.
Aussi.
Attendez, je vais couper.
Bye.
À plus.